Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 73e Weekly News. Nous sommes le lundi 23 décembre et avec moi cette semaine pour vous parler des petites news qui sont tombées, Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Et Mister Anemone.
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Au sommaire de ce soir, un petit peu d'actu ciné avec quelques officialisations de casting et d'autres rumeurs. Nous parlerons aussi de brèves comics avec notamment des infos sur Moon Knight, Batman Arkham Origins qui sort en format spécial et une grosse dose d'indé. Et le gros sujet de la semaine sera consacré au cafouillage Inhumans et Inhumanity. On y revient tout à l'heure. Je suis Steve et vous écoutez le Weekly News. Et comme chaque semaine, on va démarrer avec nos dernières geekeries du moment, le What's Up. Bruno, qu'as-tu dans ton chapeau ?
J'ai commencé une nouvelle série télé qui s'appelle Hannibal. Donc, je ne sais pas si c'est une série que tu as essayée, Steve.
Non, pas encore. C'est sur ma liste des séries à commencer un jour.
Voilà. Et j'ai plutôt apprécié ce début là. Donc, on a regardé 3 ou 4 épisodes. Et il y a une très très bonne ambiance. Donc, ça se passe avant, bien sûr, le silence des agneaux. C'est quand Hannibal était encore psychiatre.
Ouais, c'est quand et il allait au Mordor, c'est ça.
C'est ça. Et donc on suit en fait un agent du FBI qui est lui également psychologue et qui enquête sur des crimes. Et voilà. Et parfois ils vont avoir besoin de faire appel à un autre psychiatre pour les aider. Et c'est Hannibal Lecter. Il y a une ambiance vraiment très très malsaine. Enfin, que ce soit via la musique, via les effets spéciaux, via les reconstitutions des crimes. Et c'est plutôt de très bonne qualité, on va dire, pour de la série américaine. J'étais un petit peu étonné de voir Laurence Fishburne dans la série, par contre, parce que
Laurence Ferrari.
Il a un rôle qui fait beaucoup penser à son rôle dans Les Experts. Mais sinon, pour l'instant, c'est une série assez intéressante, assez trash, avec beaucoup de cannibalisme à l'écran.
Ah bah Hannibal le cannibale hein, en même temps.
Voilà, c'est ça.
Donc, Hannibal pas le skieur, c'est bien connu.
Bah, c'est une série qui passe sur NBC étonnamment, hein, malgré son côté trash.
Ouais, après c'est pas du gore tout le temps, mais il y a une sale ambiance quoi, une ambiance assez pesante.
En même temps, c'est voilà, une série que l'on doit à Brian Fuller, hein, celui qui avait développé Dead Like Me ou Pushing Daisies notamment.
Oui, qui sont beaucoup plus on va dire rigolos quand même.
Ouais, mais qui sont déjà des sujets assez alambiqués quand
assez
même.
Assez morbide, ouais. Et morbide aussi.
Oui aussi.
Donc je conseille, enfin j'attends de voir si ça va être bien par la suite. Sinon aussi une autre petite série, et là c'est grâce à un de nos auditeurs et aussi à un client du comic shop qui me les a prêtées. J'ai découvert The IT Crowd et j'ai enfilé la première saison qui est 2-6 épisodes en une fois presque, tellement c'est drôle. Donc cette série où en fait on s'intéresse à l'équipe informatique d'une société anglaise. C'est complètement délirant. C'est deux nerds qui vivent dans un sous-sol d'une grande entreprise et qui se voient rejoindre par une nana qui n'est rien en informatique, qui va devoir gérer le système. Et c'est très très drôle. C'est vraiment l'humour anglais à fond quoi. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a des rires enregistrés. Enfin, ou je sais pas si c'est des rires enregistrés ou si c'est en direct, mais ça c'est un petit peu gênant. Mais en tout cas, très très bonne série.
Un petit peu comme The Office.
Oui, la façon dont c'est filmé un petit peu, ça fait penser à The Office. Mais vraiment super, plein de références geek, c'est vraiment des gros nerds quoi.
Ouais bah c'est cool.
Ouais non, franchement je pense que c'est une série qui pourrait te plaire Steve.
Oui, c'est une série dont j'ai beaucoup entendu parler et je m'y suis pas encore mis parce que j'en regarde de trop déjà. Donc ouais. Voilà tout simplement.
C'est une série qui est finie, hein. Il y a eu 4 saisons plus un épisode spécial qui a été diffusé il y a pas très longtemps et ça s'est terminé donc...
D'accord. Et toi, Benny, ton WhatsApp ?
Bah, écoute, pas grand-chose hein, depuis ce live mémorable que vous pouvez revoir sur YouTube, un live 4 de 4 heures donc. Et oui, 4 heures de comics, mais pas que.
Et vous aurez bientôt en audio. Hein, je le diffuserai cette semaine, je pense, peut-être jeudi, si tout va bien.
Oui. Et donc voilà, donc c'était bien sympa, le temps de récupérer un petit peu. Non, bah, pas vraiment de geekerie particulière ce week-end. Très franchement, là, j'ai été sage ce week-end.
Donc, être geek n'est pas ça, ne pas être sage.
Voilà. Ma réponse.
Voilà, la meilleure réponse du monde.
Voilà,
de mon côté, je me suis maté une série que j'avais sur ma liste, justement, dont tu nous avais déjà parlé, Bruno, c'est Les Revenants.
Ah oui.
Ah, cette série Canal.
Ouais, voilà, que j'ai regardé ce week-end, que j'ai trouvé très sympathique. Bon, malheureusement, française, quoi. Ça peut paraître très méchant dit comme ça, mais franchement, les acteurs, quoi. Les acteurs, bordel de merde, qu'est-ce qu'ils sont mauvais?
J'ai pas trouvé tous les acteurs mauvais, mais c'est vrai que il y a des moments t'étais là, tu fais des face-palmes quoi quand tu vois certaines réactions.
Ah, oh, puis il y a des moments très contemplatifs à 2 francs quoi.
Ouais.
C'est même resté en francs tellement c'est contemplatif, tu vois.
Ah,
vous aviez lu cette série publiée, je crois, chez Vertigo, qui était un petit peu dans la même idée que Les Revenants, qui s'appelait
chez Image Revival.
Revival, voilà, chez Image, pardon.
Ah
Oui, tout à fait.
oui, bien sûr, oui.
Et c'est le même pitch, mais c'est très différent quand même.
c'est très différent, d'accord.
Ouais.
Oui, parce qu'en plus, ce sont pas forcément les gens qui reviennent pendant une journée. Enfin, c'est pas une journée où tous les gens reviennent. C'est un peu plus compliqué que ça.
Ouais.
C'est
mais
pas journée
par
porte
contre,
ouverte.
je me souviens qu'on avait été quand même très déçus par la fin de saison qui apporte aucune information et se dire qu'il faut attendre 2 ans et demi presque pour avoir une suite,
Ah,
c'était
ça, c'est le gros
vraiment
problème, ouais. Ça, c'est le gros problème des productions
vraiment
françaises,
énervant.
quand
Ouais.
même. C'est surtout le problème de production et le temps que tu dois
Enfin,
attendre. Parce que moi, je
pour
sais
8
que...
épisodes, quoi. On était
Oui.
super frustrés, hein, quand même, parce qu'il y a vraiment aucune explication, ni rien, quoi.
Ouais.
Enfin,
T'as pas forcément envie d'y revenir 2 ans après, quoi.
on a quelques explications, mais elles sont pas suffisantes pour que tu comprennes l'ensemble. Moi, je pense que c'est voulu.
Et
C'est
moi,
voulu.
ce qui m'avait choqué aussi, c'était la non-implication, de l'extérieur, du gouvernement, de la police, de
Mais
l'armée.
t'arrives à comprendre un petit peu pourquoi au vu du dernier épisode.
Ouais, mais c'était choquant lors de la vision des épisodes en fait. Je me disais c'est pas normal, c'est pas normal. C'est vrai qu'à la fin, on
Mais
revoit un peu le truc
déjà, il a
en se
fallu attendre le
disant.
cinquième épisode pour que quelqu'un aille ouvrir un cercueil. Moi, ce qui m'a un petit peu...
C'est vrai. Il y
Ça
avait
me
des
gonflait, quoi.
réactions un
Chaque
peu
épisode,
bizarres.
je gueulais, je me disais, mais putain, mais quand c'est qu'ils vont aller réfléchir et ouvrir un cercueil pour vérifier si les mecs sont encore dedans, quoi.
Putain, ça me fait penser à un truc, Steve. Toi qui regardes, tu regardes Blacklist?
Oui, bien sûr.
Je sais
Meilleure
pas
série
si
de
t'avais
l'année
vu.
d'ailleurs, qui est déjà renouvelée pour une saison 2, de 22 épisodes en
Est-ce que
plus.
tu te souviens, dans le premier épisode, la meuf, elle trouve une boîte avec un symbole dessus, et c'est exactement la forme de la cicatrice qu'elle a sur sa main. Et elle a, j'ai l'impression que personne s'est rendu compte de ça. Et même elle s'en est pas rendu compte. Je sais pas si c'est quelque chose que t'avais vu ou si c'est un truc.
Non,
Mais
mais tu me donnes envie d'aller revérifier là du coup.
avec Audrey, on était là en train de se dire, mais c'est fou quoi. Ça, c'est pile exactement la forme de sa cicatrice et elle s'en rend même pas compte quoi. Enfin, bon.
Alors,
Après, c'est peut-être nous qui avons fumé, mais
ce qui est complètement dingue, c'est que,
quoi qu'on le
alors,
revoie.
info exclusive extraordinaire, ma mère est justement en train, en ce moment même, de regarder le premier épisode de Blacklist. Je lui ai dit, tiens, t'as qu'à mater ça. Tu vas voir, c'est la nouvelle série dont tout le monde parle.
À
Et
meilleure
donc
nouvelle
voilà.
série de l'année, hein, clairement. Bah
D'ailleurs, on
écoute,
va prendre ta
j'espère
mère à
qu'elle va
l'antenne.
apprécier. Tu vas te
Pour
calmer quand même un petit peu, hein. Tu veux de respect. Je sais bien que bon, voilà, je te demande pas si t'as fait
le
un bébé
prestataire de
avec
l'amour, tu
Night
sais.
Runner après le live.
Ah bah oui. Bah
C'est
il était
hein,
parti se coucher.
ça avait l'air de bien marcher entre vous, un petit peu
Oh,
étonnamment
ça
d'ailleurs.
suffit, hein. Ça suffit.
On a vu une belle rencontre dans ce live. Faut revoir le live pour comprendre ce à quoi je parle, ce dont quoi je parle. Enfin voilà, j'arrive même plus à parler. C'est l'émotion.
C'est l'émotion, voilà. Tout ça, tout.
Non, c'est l'émotion, c'est une tellement belle histoire que voilà. J'en parle avec des trémolos dans la voix.
Allez, on va attaquer notre programme de news de la semaine. On commence par le Screen News, comme d'habitude. Les infos provenant pour le cinéma et la télé. Provenant pour, oui, je sais, j'aimerais. Absolument pas. C'est pas grave. On s'en fout. C'est la fin d'année. Vous nous pardonnerez ça. De toute façon, vous l'écouterez peut-être bourré le 25, ou encore bourré de la veille. Donc,
On aura peut-être des commentaires des nazis de la grammaire, tu sais.
Décidément, c'est d'ailleurs, ils sont très forts en ce moment, les nazis de la grammaire. Mais non, mais on est vraiment dans le registre bourré en ce moment. Faut se calmer un petit peu.
Ah, mais non, mais je n'y étais pas du tout.
Dove, dove, écoute.
Bref, passons aux actus ciné. Et on commence avec Ant-Man, le choix est arrêté. Ça y est, sur l'acteur qui va jouer Ant-Man, il s'agit de Paul Rudd.
Oui, et c'est Flo qui a eu un orgasme en apprenant ça, puisque c'est son chouchou. Donc, ah oui. Donc voilà.
Je savais même pas que c'était son chouchou, tiens.
Bah, il en avait parlé dans l'émission l'autre fois quand on avait annoncé qu'il était en...
Je croyais que c'était moi. Non, mais j'ai encore un choc.
Ah, tu croyais que c'était moi.
Son chouchou, donc voilà, je suis dégoûté.
Un peu déçu. Donc Paul Rudd. Donc Paul Rudd, quand même un acteur de premier plan sur tout ce qui est un peu comédie américaine. On l'a vu dans plein de films à gros succès. Hein.
40 ans mode d'emploi, en cloque mode d'emploi.
Voilà, ma voiture mode d'emploi.
Tous les films des frères Rapato, quoi. De Ron Burgundy.
Ouais. Et puis dans les Anchorman et compagnie, voilà, c'est, toutes ces comédies vraiment très très.
Oui, Anchorman, c'était ça. Le titre. Quoi. Moi, je vous ai donné le titre français parce que justement, certains, quand on leur dit le titre VO, ont du mal.
Voilà.
Il n'était pas dans Burn Notice quand même, parce que ça aurait été fait beaucoup d'emplois, du coup, de notice. Enfin, de. Voilà.
Putain. Et là, on a envie de dire ta gueule. Voilà,
donc,
tout simplement.
Paul Rudd, hein, qui a une tête un peu de petit minet, mais bon, pourquoi pas.
Bah, ce qui est intéressant, c'est le choix de ce. Enfin, c'est ce choix de casting, puisque vu qu'il est habitué aux comédies, est-ce que. Justement, Ant-Man va aller vers la comédie ou est-ce que il sera utilisé à contre-emploi ?
Oh, j'espère que ce sera pas Chérie, j'ai rétréci les gosses non plus. Hein.
Ouais, quoi que, mais
quoi que, après, dans le rôle de Rick Moranis, Paul Rudd.
Faut voir.
Si ça tombe, il fera une guest apparence.
Ouais, mais faut voir qu'il réalise quand même. Ça reste un réalisateur qui n'a fait presque que des comédies, quoi. C'est
Edgar.
Ça reste quand même le réalisateur de Scott Pilgrim, Hot Fuzz, Shaun of the Dead, Dernier Pub avant la fin du monde. C'est quand même pas des gros films d'action super sérieux, c'est souvent de la grosse déconnade, quoi. Donc peut-être que ça va donner un petit peu l'orientation du film, ce sera peut-être pas aussi délirant, mais voilà, tu sais, le moment où il va taper sa femme, tu sais, ça va être très drôle.
Ça va faire des bruits marrants, tu sais, ça va faire des pouet-pouet et tout.
Des trucs de cartoon, point, quin, point. Eh bien, rigolons avec
Batman.
Les femmes battues, comme ça on va pas avoir de problème du tout.
Ah non, mais... Quand tu tapes Netrunner, ça fait comme dans le Batman des années 60, oh, là, ça fait pif, paf, pouf.
Chut.
Bien sûr, il a fallu que tu finisses par pouf, hein, n'y voyez pas le lien de cause à effet, bien sûr.
Ça fait surtout pouf.
Ah, bon,
oh, c'est méchant. Voilà.
Allez, on passe à la suite, toujours chez Marvel. C'est officiel, alors qu'on l'annonce depuis maintenant 4 mois, Vin Diesel est bien Groot dans Guardians of the Galaxy.
Comme c'est étonnant.
Ça avait failli être Paul Walker, mais c'est Vin Diesel finalement.
Oh putain, non mais ça suffit les vannes foireuses, là. C'est quoi ce bordel? Entre les vannes sur les femmes battues et maintenant les vannes sur les morts.
Oh, ah, il aurait dû toucher du bois.
C'est comme les Gremlins, si on enregistre trop tard là.
Okay. Je dis, ta vanne était absolument ignoble.
Ouais, voilà. C'était du bois de sapin, je pense.
Allez.
Donc oui, c'est officiel, c'est Noël. Et ça a même été confirmé par Marvel et par le réalisateur. Qui dit qu'il a été hyper étonné parce que c'est un acteur qui a été capable de dire I am Groot de plein de façons différentes et voilà, donc il était vraiment très content.
Oui, c'est pas comme s'il avait enregistré déjà les voix depuis maintenant 3 mois.
Nous aussi on peut le faire, sérieusement. I am Groot! I am Groot! I am Groot! I am Groot! Ça fait déjà 4.
Mais là tu le fais avec des voix différentes, tu le fais pas forcément avec des tons différents.
Ah d'accord.
La peur maintenant.
Groot.
Ah, bien.
I am Groot!
La colère.
Allez.
Etc.
On va passer dans la maison d'en face. On va parler maintenant de Man of Steel numéro 2. Qu'on continuera d'appeler comme ça tant qu'on n'aura pas le titre officiel. Puisqu'un nouvel acteur est en rumeur pour jouer le vilain principal. Il s'agit de Joaquin Phoenix.
Et ouais. Alors là, quand même, ça fait un beau casting. Mine de rien.
Ouais.
Si c'est lui. Mais alors,
j'y crois
un peu
pas
déçu.
Un instant.
Ouais. Moi non plus. Bah, enfin, je sais pas, ça m'a surpris, parce que, rappelez-vous, on avait eu la rumeur comme quoi ce serait le mec de Breaking Bad, dont j'ai oublié le nom, qui ferait plutôt Lex Luthor.
Bryan Cranston, ouais.
Voilà, qui ferait un excellent Lex Luthor. Et puis finalement, là, ce serait peut-être lui Lex Luthor. Moi, je le verrais bien en Brainiac, Joaquin Phoenix.
Ah, on a dit que ce serait le enfin, en tout cas, c'est une des rumeurs que nous rapporte Variety. Ce serait le vilain principal. Reste à savoir s'il s'agit bien de Lex Luthor ou non.
Oui, tout à fait.
Parce que rien ne prouve que Lex Luthor sera le vilain principal du numéro 2, puisque clairement on s'embarque vers une trilogie.
Bah en tout cas, s'ils sont tous là-dedans, dans ce numéro 2, putain de casting quand même.
Ouais, enfin putain de casting, mais ça va être un film qui va être simplement un clip, quoi. Enfin, je veux dire, on va voir ouais. des personnages passer toutes les 10 secondes et il va rien avoir, quoi. Enfin, comment tu veux faire un scénario avec autant de monde?
On verra. Non, mais on verra, on verra. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. J'ai détesté le premier, mais bon, il y a des films comme ça qui nous surprennent par le second épisode.
Bah, étant donné que c'est exactement la même équipe.
Ouais, bah, écoute, rien que par la curiosité de voir la première le premier affrontement entre Superman et Batman, c'est vrai que moi, je suis quand même curieux d'aller voir ce film, même si j'ai détesté Man of Steel.
Pour moi, Batman Begins, par exemple, reste un gros nanar, alors que The Dark Knight est très bon.
Non, donc, je trouve pas que Begins est un
nanar. Oui, mais qu'importe. Mon avis a totalement changé du premier au deuxième, donc là, c'est possible aussi, quoi.
Ouais, moi non plus, je suis pas d'accord avec le fait que ce soit un nanar. Je trouvais, un bon Batman version 2000, quoi.
Alors, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un gros nanar, mais bon, bref.
D'ailleurs, en parlant de nanar, petite note triste, Escale à Nanarland, une émission que vous suivez peut-être régulièrement, s'est arrêté.
Ah oui.
C'est arrêté. Le dernier épisode a été diffusé le 21 décembre. C'est bien dommage, parce que c'était une très très bonne émission qui permettait de découvrir un maximum de petites perles.
C'est pourtant pas manque de sorties de nanar. Hein.
Et c'est clair. C'est clair. Enfin bon, continuons avec un autre film qui arrive et qui vient des studios DC. Il s'agit du film Sandman. Nous avons un nouveau producteur attaché au projet, en la personne de Joseph Gordon-Levitt.
Ah, intéressant. Donc il veut mettre ses billes dans un sujet qu'il aime bien, qu'il apprécie. Donc voilà, ça reste un rôle de producteur pour l'instant. Il n'y a aucune info si oui ou non il pourrait être intéressé pour jouer dans le film. Mais en tout cas, il a envie de donner de la thune pour que le film se fasse.
Un sujet qu'il apprécie, à savoir le sommeil. C'est quelqu'un qui aime beaucoup dormir. Il fait des siestes, il paraît, de plusieurs heures, ce mec.
Meilleure intervention pour le moment, hein, Benny, haut la main.
Donc ce serait pour travailler avec
David Goyer. Haut la main, peau de lapin, hein. Oui, la maîtresse, voilà.
Voilà. Donc avec David Goyer, Warner Bros et Neil Gaiman, peut-être, sur...
On a doute que Neil Gaiman se rattache au projet, hein, clairement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il se place en tant que producteur, comme bien sûr, comme tu l'as dit tout à l'heure, Bruno. Pour le moment, il n'est que producteur, pas de question de rôle dans le film pour le moment. On verra ce que ça va donner, mais c'est vrai que avoir un gros nom comme ça qui s'attache à ce projet,
ça aide
à croire à ce que le projet se fera.
Ouais, pour que l'échec se fasse et tout, ça aide d'avoir un grand nom rattaché.
Bah, franchement, voir un film Sandman, ça me laisse assez. Enfin, je suis assez curieux, quoi. À voir après si ce sera bien ou un total ratage, mais il y a tellement d'histoires faisables avec Sandman que normalement il ne devrait pas trop pouvoir se planter, mais c'est ton genre.
Rappelez-vous de Spawn dans les années 90. Hein.
J'ai pas entendu, Benny.
De Spawn.
Spawn, tout simplement.
Spawn, oui.
Dans les années 90, ouais.
Je veux dire, production Roger Corman, il n'y avait pas de budget. Il y avait 40 millions de budget, il y en avait déjà 20 alloués à la cape, quoi. Et on a vu le résultat avec 20 millions pour la cape, quoi.
La semaine dernière, j'ai découvert Stardust, que j'avais pas vu au cinéma, ni à l'époque, quand c'est sorti en DVD. Et c'était une adaptation donc d'un titre de Gaiman, et c'était vraiment super bien fichu.
Ah ouais?
Donc, comme quoi, on peut faire de bonnes adaptations de Gaiman au cinéma. Et pourquoi pas?
C'est sorti en 2007, hein, je crois, d'ailleurs.
Avec un Robert De Niro assez magique, hein, dans le film. J'invite les gens à voir ce film, parce que c'est vraiment très, très sympa.
Continuons sur le cinéma. Un truc qui se rapproche un petit peu du comics, puisqu'il y a eu une adaptation comics, actuellement chez Boom, mais aussi chez Marvel, il y a de ça 40 ans. C'est la suite de Planet of the Apes, la nouvelle version, le reboot, Dawn of the Planet of the Apes. Qui va sortir, et on a vu en tout cas le premier trailer de disponible.
Ouais.
Avec le commissaire Gordon.
C'est ça, tout à fait. Gros crossover avec Gotham.
On a Gary Oldman qui joue dedans, mais qui est dans un setup tellement gordonien que on se dit, ça y est, il y a Batman qui va débarquer, qui va mettre la branlée à Grodd, quoi.
C'est ça. on voit pas grand chose dans ce trailer, qui est plus un teaser, moi j'ai trouvé personnellement. Hormis la scène de fin avec César qui est vraiment très énervé et qui est toujours aussi bien fait d'un point de vue effets spéciaux.
Carrément. Ouais.
Ça c'est très impressionnant et bon ça risque de bien partir en couille. On avait vu à la fin du premier film que la Terre allait être contaminée et que presque toute la population allait mourir.
Mais en tout cas d'après le trailer, il s'est passé 4 ans depuis ce virus.
Donc donc ça peut donner des choses intéressantes, quoi.
Je parlais de Nanar, mais je pense que le premier de ce relaunch, de ce remake, le premier film, ça a été l'un des plus mauvais films que j'ai vu ces dernières années. J'ai détesté ce film.
Le film a de très gros défauts, je suis entièrement d'accord.
Ridicule. Non mais ridicule ce film, avec des clichés mais tellement gigantesques et une histoire tellement pauvre finalement. Que non, enfin c'était pas possible. Je m'en souviens encore comme l'un des pires films que j'ai vu ces dernières années.
Ah bah pourtant, enfin franchement, moi je le trouve bien 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 meilleur que le remake version Tim Burton qui était franchement dégueulasse. Quoi.
Tout à fait d'accord avec Steve. Moi j'ai pas un énorme souvenir de ce film, mais je me rappelle avoir passé quand même un bon moment au cinéma, même si effectivement il y avait des incohérences.
Il y a des grosses incohérences, il y a des très gros défauts. Ça je suis complètement d'accord. Mais le film je trouve fonctionne
quand même. Il y avait Drago
Malfoy.
Cela dit, ça. Enfin, ça n'a aucune. Enfin, c'est totalement différent du remake de Tim Burton. On est vraiment dans un autre registre quasiment, puisque là, oui. C'est vraiment les origines. Le film de Tim Burton, c'était l'univers de la planète des singes. Enfin, voilà, c'était différent, quoi.
Ouais. Non, franchement, moi, j'ai hâte de voir la suite quand même. Même si j'imagine que le film aura autant de défauts que le premier, mais bon, ça reste quelque chose qui fonctionne pour moi.
Et puis les motion capture, les technologies actuelles sont assez impressionnantes.
Ouais. On va passer maintenant à l'univers du jeu vidéo, puisque les MMO à tendance comics bougent un petit peu en cette fin d'année. On nous annonce pas mal de nouvelles choses. On va commencer par celui de Marvel Heroes, qui va débuter une nouvelle façon de jouer, puisqu'ils vont implémenter le PVP. Donc le joueur contre joueur, avec un mode qui sera un peu dans le style des MOBA. Donc ces jeux où on joue en équipe. Apparemment, ce serait donc Fire versus Ice, le nom du truc. Ils sont pas trop fait chier, j'ai l'impression.
Oui, alors là, franchement, ça donne pas envie, quoi. Ça vend pas du rêve, hein, le titre.
Apparemment, deux équipes de 5 se battront les uns contre les autres, en plus avec des drones alliés qui vont leur envoyer des vagues d'ennemis. Enfin bon, bref, ça va être le bordel. Ça peut rester plutôt sympathique à voir pour ceux qui continuent de jouer à Marvel Heroes, et surtout nous annoncer tout un tas de nouveaux personnages. Parmi eux, nous retrouverons Doctor Strange, le Juggernaut, Magneto, Moon Knight, Nightcrawler, Psylocke, Silver Surfer, Star-Lord, Invisible Woman, Venom, et deux autres qui ne sont pas encore dévoilés. On a Gambit qui est arrivé dernièrement dans le jeu, et Domino qui l'a remplacé en guise de vendeur, parce que Gambit était juste un vendeur jusqu'à présent dans le jeu, un PNJ.
Elle était vendeuse de pizza.
Alors celle-ci.
En plus, elle est recyclée, hein, je pense.
Celle-ci, franchement, est absolument pourrie.
Immonde. Ouais. Voilà.
C'est donc ces personnages-là seront disponibles en 2014. Vous pouvez d'ores et déjà acheter un pack avec tous ces personnages-là, si vous les voulez tout de suite, qui comprend donc les 12 personnages plus 36 fortune cards, 12 redcon qui vous permettent de remettre à zéro vos stats. Moi, j'ai trouvé le nom très bon, hein, les redcon. Et 12 barres de stash, enfin 12 barres de coffre.
Les mousses aussi.
Pour 100... Putain, mais... Oh, ça finit les vannes, oui. Pour $100. Quand même.
Putain. Ah et oui, sympa. Ah oui, non mais ça, oui.
Pour 130, vous avez la même chose, mais vous avez en plus un costume supplémentaire pour chacun de ces 12 personnages. Le costume de Gambit version mort et le costume Wolverine
comprendre.
Free itself. Oui, mort des 4 cavaliers d'Apocalypse. Mais je m'adresse à un public quand même qui sait de quoi je parle.
Parce que sinon.
Ainsi
c'est
que du coup 72 cartes fortune au lieu des 36 et 24 redcon au lieu de 12.
Un bon Gambit,
arrête,
avec un Gambit,
c'est n'importe quoi ce jeu.
Bah, après, les personnages sont toujours droppables dans le jeu, mais si vous les voulez tout de suite, voilà, vous pouvez dépenser de l'argent. C'est ce qu'on appelle le free to play.
Ah oui, mais alors là, c'est vraiment, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Hein.
Bon, c'est clair. Ils y vont même carrément avec les pics de la fourchette, pour rester dans la même analogie.
Ouais. Là, on est vraiment dans le repas de réveillon, tu
couteau.
Sais, avec la famille qui te sort des expressions de la guerre 40.
Et on nous annonce aussi le Kate Bishop qui va arriver dans le jeu sous la forme d'un des costumes pour Hawkeye avec de nouvelles animations et un design, le design de Jim Chung, tout simplement. Un peu comme ils avaient fait pour Superior Spider-Man, avec une nouvelle voix, etc. Chez DC maintenant, DC Universe Online continue ses DLC avec un nouveau DLC qui s'appelle War of the Light Part 1, qui est la première partie d'une trilogie. On en avait déjà parlé il y a un petit moment de ce qu'ils avaient annoncé. Ça y est, ça va débarquer avec notamment les Blue et le Red Lantern Corps qui vont débarquer et qui seront les personnages principaux de cette première partie. Donc notamment Saint Walker et Atrocitus qui vont rejoindre aussi la version PVP. Mmh. Voilà ce qu'on pouvait annoncer pour
les MMO.
Pour DC Universe Comics. Online. Et enfin, on a le Infinite Crisis qui est le MOBA version DC Universe, qui est toujours en bêta. Vous pouvez toujours essayer de vous inscrire à la bêta, vous serez peut-être sélectionné. Et on a eu plusieurs nouveaux personnages qui sont apparus ce mois-ci, notamment la Harley Quinn de Earth Prime, la Mecha Wonder Woman de Earth 44 et Robin. Et
même nous, tu vois, on a du mal à s'y retrouver. Hein.
Bah, écoute, moi j'annonce les infos, hein, ça intéressera peut-être quelqu'un.
Non, mais c'est vrai que du coup, ils continuent à sortir des personnages, c'est que le jeu, quand même, il y a des gens qui attendent ce jeu.
Rappelons qu'Infinite Crisis est toujours en bêta hein, pour le moment. Il n'est pas encore complet, il n'est pas encore jouable par tout le monde. Mais vous pouvez toujours tenter de vous inscrire à la bêta, il y a de nouvelles sélections de temps en temps. Je ne vais pas vous dire quand parce que j'en sais rien, mais tout simplement. Allez, on va passer au gros sujet de la semaine. C'est un sujet purement comics puisqu'il s'agit du cafouillage Inhumans Inhumanity.
Oh putain.
Marvel a complètement changé son fusil d'épaule concernant cette grande bannière qu'il arborait, mais pas qu'il arborait, ça ne veut rien, c'est pas du tout la même chose. Marvel arborait cette nouvelle bannière qui était censée être le renouveau de Marvel, en quelque sorte, lancer le All New Marvel Now et en même temps être la suite directe d'Infinity. Eh bien, ça fait plouf. Ça fait un gros plouf, puisque Inhumans, la série qui était dérivée d'Inhumanity, a été repoussée, ça on le savait, au mois d'avril. Ouais. Au mois de mai, peut-être, je sais plus.
Quatre mois de retard.
Mois d'avril, ouais. Et finalement, on a appris qu'elle changeait d'équipe créative, puisque c'est Charles Soule qui va devenir le lead scénariste et non plus Matt Fraction.
Ça, c'est énorme. Ça, c'est vraiment le double effet qui se coule, quoi. Non seulement Matt Fraction qui se barre, je me suis dit, oh putain, quand même, après tout ça, après tout ce Bataclan qu'ils nous font depuis des mois, mais en plus Charles Soule qui arrive. C'est-à-dire que c'est le mec, t'as une fuite chez toi, t'as, ton canapé qui est pourri, tu veux le changer, t'as les enfants à aller chercher à la crèche, t'appelles Charles Soule. Parce que c'est incroyable.
Pour dépanner.
Il est toujours là pour dépanner, ce mec-là.
N'importe quelle société.
Mais c'est ça.
Il est arrivé.
Donc sur Swamp Thing, sur Red Lantern, sur Thunderbolts, sur qu'est-ce qu'il a fait d'autre récemment? J'en oublie un gros en plus, je suis sûr. Mais je sais plus. Mais en tout cas,
il est sur Letter 44, son projet perso
il
chez lui.
Il est sur Superman Wonder Woman.
Et il est sur Superman Wonder Woman également. Ouais ouais non mais il est partout ce mec. Il est partout chez DC, chez Marvel, sur de l'indé. Et quand j'ai vu son nom, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est une blague.
Il va être sur Miss She-Hulk.
Et oui, sur She-Hulk aussi, oui.
Donc c'est incroyable. Vraiment le mec qui...
Restera-t-il sur She-Hulk, en revanche?
Bah j'espère, parce qu'on en parlait, c'est un des points intéressants de ce titre, c'est justement que ce soit écrit par un ancien avocat.
Bah oui.
Donc, ça, ce serait dommage qu'il
parte... Moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est la série la moins en vue, donc j'ai bien peur que ce soit celle-ci qui saute de son planning, hein.
Ouais, mais c'est peut-être celle qui lui plaît le plus à faire. Quoique, bon, il a l'air très content de rejoindre Inhumans. Mais...
Bah, d'après ses dires, en tout cas, quand il est arrivé chez Marvel, qu'il a pitché pour les Thunderbolts, on lui a demandé quel personnage il aimait, apparemment une pratique courante chez Marvel, et il avait cité les Inhumains.
Oui, alors oui, ça c'est toujours la petite histoire.
Discours
que raconte...
de com ou pas.
Ouais. Tous les auteurs vont te raconter cette histoire-là de « Ah, j'ai toujours rêvé d'écrire sur ce personnage-là, c'était un rêve qui se concrétise, blablabla ». Bon, c'est pour faire passer la pilule en même temps, parce que c'est tellement risible, en fait, cette situation, qu'ils ont vraiment besoin, là, de communiquer en disant « Non, non, mais tout va bien, non, mais c'est normal, non, mais vous inquiétez pas. »
Alors, clairement, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que le fait d'avoir repoussé la série au mois d'avril, c'était simplement pour changer d'auteur et non pas simplement un problème de planning, etc.
Oui, ou de retard de Madureira, parce qu'on aurait pu
retard,
dire
oui.
Ça vient de Madureira.
Non, mais oui, il y a forcément un retard de Madureira, puisque Madureira avait dessiné le premier épisode complet de Matt Fraction, et il a été obligé de recommencer à zéro pour le nouveau script de Charles Soule.
Putain. Et non, mais en plus de ça, moi je pense qu'il y a quand même... Peut-être ils se rendent compte qu'il y a un petit désaveu des Inhumains, et qu'ils se rendent compte que peut-être les fans sont pas autant enjoués que peuvent l'être Marvel depuis des mois à propos de ces Inhumains. Je pense que... Ça n'a pas été non plus la folie lors de la sortie de cet épisode spécial qu'on a chroniqué dans un Comics
Oui,
Wiki là, il y a quelques
qui
semaines.
S'appelle, qui s'appelle Inhumans numéro 1 finalement, qui était censé être un one-shot et qui maintenant est une mini en deux.
Ouais.
Et qui est, du coup a dû jouer aussi pas mal dans le changement de scénariste, puisque c'était écrit par Matt Fraction et qu'on était tous d'accord pour le dire, c'était pas un titre hyper vendeur pour débuter justement un gros événement comme Inhumanity.
Non, c'est
c'était
absolument
pas
un jumping point.
C'était pas mauvais, mais c'était clairement pas un jumping point.
C'était pas mauvais, enfin franchement, c'était pas bon non plus, quoi.
Bah, non, mais il y avait un ton très très lourd, très dur. Enfin, je veux dire, ça se termine avec
c'était
une mort
Dark
d'un
Gloomy,
personnage emblématique, et voilà, ça, on sentait le truc qui était assez pesant. Voilà, c'était peut-être pas le ton que voulait donner Marvel à justement ce grand élan inhumain pour 2014.
Oui. Non, parce que le problème, c'est que c'est même pas une série qui devait fonctionner. C'était la série. La série Marvel de l'année prochaine, c'était l'événement. Donc, à mon avis, ils ont été sacrément échaudés. Ils se sont dit mince, bah finalement peut-être que les gens ne nous suivent pas là-dessus. Bon, bah ça va peut-être passer au second plan. Peut-être qu'ils vont préparer autre chose, un autre événement pour l'année prochaine, du coup.
Bah, je pense que le fait de garder Madureira, ça attire quand même encore énormément de.
Oui.
D'attention
ouais.
de la part des
ouais,
médias
mais,
sur le
mais
titre.
En même temps souviens-toi de je sais plus là, cette série Spider-Man Team Up là,
oui.
Je sais même plus comment elle s'appelle.
Avenging Spider-Man.
Avenging Spider-Man.
C'est possible.
Effectivement, ça a attiré peut-être du monde, mais ça a pas été la folie non plus.
Et ça a pas duré longtemps hein, puisqu'il s'est vite barré.
Oui.
Hein.
Enfin, je veux dire voilà. Et puis c'est pareil, il est passé sur Wolverine, Savage Wolverine, ça a pas été la folie non plus,
c'était
pas
le
titre.
Oui, mais bon, Savage Wolverine de toute façon, c'est la série anthologique de Wolverine
ouais.
avec une
oui,
équipe créative par arc.
Ce que je veux dire, c'est pas parce que Madureira passe sur un arc que cet arc en question va vendre des caisses et des caisses.
Alors, la raison officielle du départ de Matt Fraction, selon lui et Axel Alonso, qui se
il
sont sûrement
piscine.
Mis d'accord avant, oui, voilà, c'est ça. Il avait piscine ce jour-là, il pouvait pas. c'est simplement que le script de Matt Fraction ne correspondait pas aux attentes de Marvel. Marvel lui a donné d'autres attentes et ça ne correspondait pas à ce qu'avait envie de faire Matt Fraction, et donc du coup ils ont préféré arrêter plutôt que lui écrire quelque chose qui ne lui fasse pas plaisir ou qu'il écrive quelque chose qui ne plaise pas à Marvel et qui soit rejeté aussi.
Ce qui est étonnant, c'est qu'on en soit là maintenant. C'est incroyable. Ça fait des mois que c'est dans la machine, que c'est lancé, que c'est tout un processus qui est mis en place, et que ce soit que maintenant qu'ils se rendent compte que finalement ils sont pas d'accord sur la direction. C'est quand même incroyable.
Alors, on en parlait, mais on a vu une interview justement où Matt Fraction s'exprimait. Le mec dit, alors je sais pas si c'est sérieux, qu'il avait la outline, c'est-à-dire les bases pour 64 numéros et plusieurs bouquins remplis d'idées sur la série. Donc le mec a quand même bossé énormément sur ça, quoi. Et enfin bon, ça. En plus là, c'est le moment où Matt Fraction, tout le monde parle de lui avec le succès de Hawkeye, le succès de FF. Le fait qu'il soit nommé à Angoulême.
Rappelons-le, ouais, voilà, nommé à Angoulême. Time Magazine qui a fait Book
oui.
of the Year de Sex
ça,
Criminals.
Ça, je savais pas, tu vois. Et... Oui, pardon, Sex Criminals, oui, effectivement. Et, c'est étonnant. Enfin, c'est vraiment un gros titre.
Mais justement, moi, j'ai l'impression, alors c'est une vue personnelle, que Matt Fraction n'est plus en odeur de sainteté chez Marvel. Je vais m'expliquer. Matt Fraction avait pondu l'ignoble Fear Itself. Qui, rappelons-le, les conséquences ont été annulées dès le numéro 7.1 de Fear Itself, sorti la semaine après le numéro 7. Voilà.
Ouais. Mais bon, pour autant, ils lui ont quand même confié Inhumans, donc c'est
ils lui
étrange.
Ont confié Inhumans, mais je rappelle aussi qu'il écrivait Fantastic Four et FF. Fantastic Four est un échec commercial, clairement. C'est une série qui a pas décollé dans le classement alors qu'ils en attendaient énormément.
Ça se vend pas.
FF oui, mais... a bien marché, mais j'ai l'impression qu'il a bien marché chez les gens comme nous, c'est-à-dire c'est un gros succès critique, mais pas forcément public.
Ouais, enfin, cela dit, si je peux me permettre là-dessus, au fait, il a pris Fantastic Four un petit peu par dépit pour faire FF, au fait. C'est-à-dire que il avait envie surtout de faire FF, et il pouvait pas faire l'un sans l'autre, puisqu'il pouvait pas ne pas écrire les 4 Fantastiques qu'il envoyait pendant X temps dans l'espace, voilà. Donc il était obligé de prendre Fantastic Four un petit peu par dépit. Maintenant, j'ai envie de te dire, il n'y aurait pas eu FF sans Fantastic Four. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
C'est, oui,
il était obligé
sûr.
De. Donc, est-ce qu'il valait pas mieux avoir deux titres, un qui fonctionne et un qui fonctionne pas trop, De juste
Ouais.
avoir un titre qui fonctionne
Là où
pas
je vais en
s'il
venir,
était... Enfin,
là
t'as
où
ce
je
que je
vais
veux
en
dire.
venir, parce que j'avais pas fini d'expliquer pourquoi je pense qu'il est plus en odeur de synthé chez Marvel, c'est qu'il s'est barré avant la fin de ses deux titres. Quand
Ouais.
même.
Oui.
Rappelons-le, soi-disant parce qu'il avait une surcharge de travail. Donc
Oui.
après, on nous a avoué que c'était pour Inhuman. Finalement, Inhuman, on a vu quoi? Le premier one-shot, qui est en fait une mini en deux, puisque le one-shot Medusa sera Inhumanity numéro 2, qui sont pas bons, qui va du coup, qui était censé lancer les intrigues que l'on aurait eues dans Inhumans, mais finalement, avec le numéro 2, va être obligé de boucler ses intrigues pour faire place nette pour Charles Soule. Les copies qu'il a rendues ne satisfaisaient pas Marvel. Finalement, actuellement, Matt Fraction ne travaille plus que sur un titre chez Marvel, c'est Hawkeye. Et ils vont pas l'enlever de là, puisque bah, le truc est nommé pour Angoulême, qui reste même aux États-Unis une récompense très prestigieuse. Mais c'est tout. Matt Fraction ne fait plus rien chez Marvel.
Enfin, il est nommé sur Angoulême. Parallèlement à ça, Hawkeye est un succès aux États-Unis, succès critique
Bien sûr.
et je, ça vend bien aussi, Hawkeye.
Bien sûr, mais j'ai l'impression que c'est terminé pour lui, en tout cas les gros projets mainstream. C'est l'impression que ça me donne, je peux me
Voilà,
tromper, mais...
ce qui est étonnant de la part de Marvel, c'est qu'ils auraient pu communiquer sur le fait qu'il aille sur un autre gros titre en même temps, mais comme c'est vrai qu'ils n'en parlent pas, ça laisse un peu de... Enfin, on est dans l'expectative de voir où va aller Matt Fraction par la suite.
En lisant l'interview d'Axel Alonso, l'interview croisée d'Axel Alonso, Matt Fraction et Charles Soule, il est fait à aucun moment mention d'une autre série pour Matt Fraction.
Mais moi je pense aussi que le gros problème avec un auteur comme Matt Fraction, c'est que clairement, il fait partie de ces auteurs qui est largement à son meilleur sur des séries un petit peu indé, enfin même complètement indé, puisque Hawkeye finalement et FF, on est plus du côté indé que du côté mainstream.
Bah, il avait
Donc
fait cet énorme run d'Iron Man qui, certes, était très bien, mais beaucoup trop long. On n'a pas cessé de le dire au moment où on le chroniquait.
ouais.
Quand tu les lis en TP, ça passe très bien, l'histoire est très bonne, mais c'est juste que 8 parties ou 12 parties pour faire un arc, c'est beaucoup trop long.
Ouais, mais enfin reste que sa narration est très lourde sur du mainstream comme Iron Man, alors que sa narration est super fluide. T'as même pas l'impression que c'est le même scénariste quand tu lis un Hawkeye et quand tu lis Hawkeye en un épisode, il te raconte une histoire. Comment ça s'appelle? Fantastic Four et justement Iron Man, il lui faut huit parties pour te raconter voilà une histoire complète. Et c'est très laborieux. C'est des dialogues qui n'en finissent pas, c'est verbeux pour rien dire. C'est voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est fait pour faire de l'indé, pour faire des choses un petit peu différentes que du mainstream. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi Marvel a, c'est aussi un petit peu la faute de Marvel. Ils ont vraiment voulu lui donner Inhumain. Peut-être, bah, je pense qu'au fait, Marvel se sont rendu compte un petit peu tard que finalement Fraction avait peut-être donné un côté un peu trop indé à Inhumans, qui leur convenait pas. Ils ont peut-être eu peur que ça plaise pas à tout le monde, je sais pas. Mais enfin bon,
En
c'est un
même
petit peu
temps,
la faute de Marvel aussi,
rappelons que
quoi.
la série Inhumans était censée se concentrer sur des nouveaux Inhumains qui vont devoir gérer avec le fait de découvrir qu'ils font partie d'une grosse famille royale, qu'ils ont des pouvoirs, que leur vie d'avant est terminée, que bah voilà, c'est les nouveaux mutants qui ne disent pas leur nom, quoi.
Ouais, mais en même temps, on sait pas comment ça aurait été fait avec ce premier numéro par Matt Fraction et
Bah,
Madureira, quoi.
peut-être un jour Marvel nous ressortira ses collections From the Vault.
Peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, c'est moi pour moi, c'est un petit peu la faute de Marvel. Si Matt Fraction, il est un petit peu pour rien dans cette histoire, c'est-à-dire que
Ah mais oui, non mais
c'est eux qui
je dis pas que c'est
décident.
de sa faute. Je dis
C'est
juste
eux.
qu'à mon avis, il est grillé chez Marvel.
Oui, mais enfin, je veux dire, c'est eux-mêmes qui l'ont grillé, puisque ils lui confient un gros projet, ils lui disent, bon, écoute, si ça te donne trop de taf, laisse tomber tes deux titres là qui fonctionnent bien, FF et Hawkeye,
Oh,
concentre-toi,
qui
enfin,
fonctionne bien.
Hawkeye, il le laisse pas tomber d'ailleurs, mais laisse tomber FF, concentre-toi sur Inhumans, et puis finalement, au final, ils sont pas contents, enfin, ça correspond pas à leurs attentes. Bon bah voilà, et du coup ils lui disent bon bah non bah finalement on va arrêter là et en plus super tard quoi, c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que quand même je veux dire les choses sont déjà bien entamées depuis des mois,
Enfin,
c'est quand même bizarre
pour
que
Inhuman,
voilà.
l'annulation s'est faite le jour même où fallait rendre les achats chez Diamond 2 mois à l'avance, donc ça a été fait vraiment hyper tard, quoi. Et ça montre vraiment que ça n'avait pas été du tout réfléchi. Et voilà,
C'est un peu ce qui est énorme aussi là-dedans, c'est que après avoir lu le numéro qu'on a lu l'autre fois, où Matt Fraction dit ça va être énorme, finalement, bah, on saura jamais ce qui va être énorme, quoi.
Bah, le truc, c'est qu'il va devoir résoudre un peu les intrigues qu'il a mises en place dans ce numéro 2 d'Inhumanity, qui était anciennement le Inhumanity Medusa.
Alors après, c'est vrai, moi je suis d'accord avec Steve, je pense pas qu'il soit complètement tricard maintenant chez Marvel, mais c'est vrai qu'il s'éclate énormément chez Image, que ce soit avec Sex Criminal, et il fait également d'autres séries comme Satellite Sam, qui est une série qui arrive assez fréquemment, enfin c'est tous les mois, je crois, c'est un mensuel, et
ouais,
qui marche bien
d'un
point de vue critique. Deux titres assez différents, mais qui doivent demander quand même pas mal de boulot. Le mec, il s'éclate là-dedans, quoi. Enfin, quand on voit justement la couverture du Sex Criminal numéro 1, le quatrième printing, il y avait marqué en haut par le scénariste de Inhumans, et il s'est amusé à le barrer, voilà, en mettant en avant ce côté un peu humoristique. Donc voilà, j'étais peut-être sur Inhuman avant, mais maintenant je le serai plus. Enfin, le mec, il s'en fout presque à la limite, et il s'éclate chez Image comme ça, quoi.
Mais je pense qu'effectivement, c'est vraiment la démonstration qu'il est plus à l'aise sur de l'indé que sur du mainstream. Et c'est comme, il y en a plein comme ça, je trouve qu'Aaron aussi est meilleur sur de l'indé que sur du mainstream. Il y a de plus en plus de scénaristes comme ça, et c'est étonnant parce que, à l'inverse, Marvel n'utilise pas assez les scénaristes à l'aise sur le mainstream. Par exemple, Christos Gage, ça fait des années et des années qu'il est en retrait, alors que ce mec-là, tu le fous sur un Inhumans, je suis sûr qu'il connaît la mythologie des Inhumains sur le bout des doigts, il pourrait faire un truc génial, mais non. Voilà, du coup, bon bah Charles Soule. Alors, ce sera pas bien,
on transforme tout en or.
Non, Charles Soule s'y connaît vraiment bien en Inhumans.
Ça par contre, je dis pas le contraire. Charles Soule, ce sera peut-être très bon ce qu'il fera. Maintenant, il va bientôt se retrouver, à mon avis, overbooké, hein, parce que là, c'est plus possible, quoi.
Moi, il y a une phrase, voilà, qui me fait penser, qui me conforte, hein, dans cette idée que Fraction est grillé. C'est ce qu'il dit à un moment par rapport au fait qu'il a dû tout fermer, enfin tout réduire un maximum ses plans, essayer de les terminer les intrigues qu'il avait mises en place, puisqu'il dit qu'il a réécrit complètement ou presque le numéro 2 d'Inhumanity. Pour faire de la place pour Charles, pour que lui puisse aller et faire ce qu'il a envie, enfin ce que lui et Marvel ont envie. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite pique de sa part. Enfin bon, c'est peut-être moi qui le vois comme ça, mais en tout cas, j'ai quand même l'impression qu'il en balançait des petites piques comme ça dans l'interview sur le fait que bah voilà, il a beau dire, il n'a pas été viré, c'est pas lui qui est parti ni le fait qu'il a été viré, c'était un accord mutuel. Moi, j'ai du mal à y croire.
On sera vite fixé, hein, puisque si d'ici un mois, on n'a toujours aucune nouvelle d'autres projets de Matt Fraction chez Marvel, ça sentira mauvais quand même. Mmh.
On sera fixé aussi sur Marvel, parce que je me demande si Marvel n'est pas en train de prendre le chemin de DC. Certes, c'est qu'avec Matt Fraction, mais c'est quand même un gros nom qui fait vendre chez eux. Il faudra surveiller s'il y a d'autres équipes créatives qui changent comme ça un petit peu à la dernière minute.
D'autant que ce type de décision nous avait fait rire il y a quelques mois, lorsque d'un seul coup sur Action Comics ils s'étaient retrouvés sans scénariste. Souvenez-vous du départ d'Andy Deagle. Mm-hmm. Là c'est exactement la même situation.
Après,
exactement.
Avant même que le premier numéro soit sorti d'ailleurs.
Voilà, c'est la même situation. On s'était foutu de la gueule de DC pour ça. Bon, alors il y avait eu d'autres problèmes, hein, chez DC aussi. Ils en avaient eu plus que Marvel. Mais Marvel commence effectivement à prendre ce chemin. Et en plus, alors double, ça renforce en plus cette impression, parce que amener Charles Soule aussi sur ce titre, ça fait vraiment penser à ce qui s'est passé il y a quelque temps chez DC sur d'autres séries. Quoi. Mm-hmm. Donc bon, c'est marrant. C'est vraiment, on a l'impression mm-hmm. qu'il se DC-ise totalement là, dans le bordel éditorial.
Il y a eu justement pour Black Widow aussi, je crois, un changement de scénariste avant même la sortie du premier numéro, hein. Enfin du premier numéro, je crois. Je crois que le scénariste qui était prévu n'est finalement pas celui qui sera choisi au final.
Mais je crois qu'on a eu, aussi un exemple comme ça il y a un ou deux mois, mais j'arrive plus à me remettre la main dessus. Enfin, je sais qu'il y a eu un changement aussi qu'on a annoncé récemment chez Marvel comme ça.
Mmh. C'est bien possible.
Va falloir surveiller Marvel. J'espère que Marvel ne va pas commettre les mêmes erreurs que DC a commis en 2013. Mais ça a l'air mal barré. Hein. Pardon. Un dernier petit mot peut-être sur Charles Soule finalement, parce que on a parlé de lui qui se retrouve propulsé un petit peu là-dedans sans vraiment le vouloir. Enfin, bon, il voulait Inhumans, mais sans forcément vouloir prendre la place de Matt Fraction. Est-ce que finalement vous avez peut-être un peu plus envie de lire Inhumans maintenant qu'on sait que c'est écrit par Charles Soule, ou est-ce que ça change absolument rien sur cette série pour vous?
Bah, pour moi, le mec, tout ce qu'il touche, il le transforme en or. Je suis désolé, mais Thunderbolt, par exemple, qui est une série qui était pas terrible, depuis qu'il est arrivé dessus, c'est devenu assez excellent, même si il est pas aidé par les dessins. Mais c'est un titre qui est devenu hyper fun. Ce qu'il fait chez DC, on en parle toutes les semaines, c'est plutôt très bon. Donc, ce qu'il fait en indé aussi.
Justement, les séries qu'il fait actuellement chez DC, chez Marvel, je les lis plus. Faute de temps. Alors, c'est Thunderbolts, j'ai du retard, j'essaierai de les lire. Swamp Thing, pareil, j'essaierai de les lire un jour ou l'autre. Toute la franchise Green Lantern, ça fait un an que j'en ai pas lu, donc je vais pas me mettre à lire ces Red Lanterns d'un seul coup. C'est vraiment une question de temps. Il se trouve qu'il est arrivé sur des titres sur lesquels j'avais du retard. Pas de chance.
Quand on sait que c'est bon, c'est vrai qu'on se dit, je les lirai plus tard, au moment où j'aurai plus le temps, plutôt que de devoir lire à l'arrache comme nous on le fait pour le Comic City, pour le Comics Weekly, pardon.
Exactement.
Et finalement, c'est comme ça qu'on prend du retard.
Et c'est comme ça aussi qu'on prend du retard, mais qu'on prend vraiment du plaisir une fois qu'on y est et qu'on peut enfin les lire en bloc, comme ça, en one shot. Si c'est vraiment bon, je pense que je vais les dévorer en très peu de temps. Mais, toujours est-il que, est-ce que ça me rassure de savoir qu'il arrive sur Inhumans? Est-ce que ça m'intéresse plus à Inhumans? J'ai envie de te dire non, parce que déjà cette situation, ça sent très mauvais, dans le sens où Matt Fraction avait quand même des plans bien définis qui vont être remaniés, visiblement, puisque de toute façon, si ça plaisait pas à Marvel, donc ça va être autre chose. Déjà ça sent pas très bon. Et puis, les Inhumains, c'est pas parce que c'est Charles Soule ou même ce serait Christos Gage. C'est pas avec ce qu'on en a lu jusque là après Infinity que je suis vraiment intéressé par le destin des Inhumains, quoi.
Pour ma part, ça me rassure un peu parce que j'ai pas du tout aimé ce qu'avait prévu Matt Fraction, enfin en tout cas ce que l'on peut voir esquisser avec Inhumanity numéro 1. Donc ça me rassure ce changement. Maintenant, comme tu l'as dit, en tout cas, enfin tu en as parlé brièvement, c'était peut-être pas ton propos, mais en tout cas c'est ce que j'ai retenu. C'est vrai que il va y avoir une grosse direction Marvel et j'ai bien peur que cette série soit vraiment très contrôlée éditorialement parlant et que donc il puisse pas s'amuser autant que sur les autres séries qu'il écrit.
Ce qui serait énorme, c'est qu'il se rende compte au bout de quelques numéros qu'effectivement il a les mains liées et que lui aussi s'en aille. Alors là, ce serait la première fois qu'on ait un truc pareil, c'est-à-dire que les deux auteurs quittent le navire.
Il annoncera qu'il part en mars et que la série repoussée au septembre.
Ce serait énorme. Là, Marvel serait vraiment au caca, quoi.
Oui. J'ai retrouvé l'info concernant l'autre changement créatif, c'était Elektra en fait, c'était pas Black Widow.
Ah, Elektra.
C'était censé être Zeb Wells et c'est finalement Aiden Blackman qui va le faire. Et du coup, titre a été pareil repoussé à avril 2014.
Ouais. Donc, Aiden Blackman aussi a quand même... il a un gros passif sur Black Woman. Donc, personnellement, je suis plus rassuré pour lire Elektra de cette version-là que la version Zeb Wells.
Voilà, mais bon, ça veut dire quand même qu'ils étaient... Ils ont quand même eu quelques petits soucis avec ce All New Marvel Now au niveau des équipes.
Après, chapeau à Marvel, puisque bon, là, ils ont communiqué, certes, pour Inhumans, parce qu'ils n'avaient pas le choix, c'est une série qui est vraiment très en vue, mais l'autre est quand même un peu passé discrètement et a fait beaucoup moins de tapage médiatique que ce qu'avait fait DC l'année dernière. Cette année. Enfin bon, on verra, on continuera de vous en parler dès qu'on aura plus d'infos. Mais moi, je commence à avoir un petit peu peur pour ce All New Marvel Now. Il y a peut-être l'air d'avoir de très bonnes séries, mais l'impression que c'est le côté éditorial cette fois-ci qui déconne.
Wow, de toute façon, moi, le All New Marvel Now, ça m'a déjà lassé. On a eu le Marvel Now qui était très bien foutu.
Ouais, mais voilà, je pense qu'ils veulent.
Très bonne surprise.
Ils veulent renouveler l'événement, mais.
C'est ça.
Ils veulent trop renouveler l'événement, justement.
C'est ça. Ouais. Moi, j'en ai marre des changements, tout simplement. J'aimerais bien que. Les titres Marvel Now aient duré 2-3 ans et puis ensuite peut-être aller qu'on ait renouvelé un petit peu le truc, mais là renouveler tous les ans, créer de nouveaux titres à chaque fois alors qu'on n'a même pas encore digéré ou lu l'intégralité des anciens, non, franchement ras-le-bol, quoi. Ça m'intéresse même plus, j'en oublie les annonces.
Allez, on va continuer et on va passer aux brèves comics. Maintenant, on commence avec une brève, on va dire, plutôt à tendance française, puisqu'il s'agit de la Comic-Con Paris, qui, pour sa 6e édition, sera repoussée à une date indéfinie pour le moment.
Ultérieure.
La Comic-Con quitte la Japan Expo. La Japan Expo aura toujours lieu début juillet, comme chaque année, mais terminée, la Comic-Con collée à la Japan Expo, la Comic-Con aura sa propre vie. Enfin, peut-être. Moi, j'y crois pas, personnellement.
Bah, on va attendre, parce qu'ils ont quand même payé super cher leur licence, ils ont énormément de partenaires pour pouvoir la faire vivre. Je pense qu'ils réfléchissent surtout à un moyen de la rendre plus attractive et de gagner plus de thunes et d'avoir un peu plus de le focus sur eux, parce que c'est vrai que ça a tendance à être un peu phagocyté complètement pour la Japan Expo.
Moi, pour moi,
du point
c'est
de vue du public, en plus, elle est quand même pas très très bien vue.
Bah, de toute façon, ça fait à peine la moitié de la Japan, cette Comic-Con, sachant que dans la Comic-Con, on a déjà plus de la moitié qui est pris par... Pas par les jeux vidéo, par le catch, etc.
C'est du remplissage.
Il y a à peine un quart de la taille de la Comic-Con qui est vraiment du comics, quoi.
Oui, non, c'est du remplissage. C'est du remplissage. Et c'est ce qu'on disait, autant à la PCE, il y a tout ce qu'il faut, tous les ingrédients qu'il faut pour faire une bonne convention agréable. Autant à la Comic-Con, il manque des éditeurs. Quelquefois, donc on n'avait pas Urban. Enfin voilà, il y avait vraiment des manquements importants. Il y avait quasiment pas de magasins non plus.
Non, presque pas. Ouais.
Donc bon, enfin voilà, pour moi c'était vraiment du rafistolage quoi. C'était allez, on va essayer de faire un truc, une pseudo Comic-Con à la française, mais voilà. Jusque-là, on n'a pas eu une vraie édition.
Pour moi, le problème qui se pose surtout, c'est où la placer et surtout quand la placer. Parce que on a quand même le Paris Manga, on a la PCE, on a maintenant Geekopolis qui ont certes lancé leur initiative sur Ulule, hein, du coup, puisque c'est pas Kickstarter, ouais. Mais voilà, qui est quand même une plutôt bonne convention hein, au vu de ce qui s'est passé cette année.
Et qui a été très apprécié pour sa première, son premier truc. Quoi.
Il y a plein de conventions comme ça, quand placer la Comic-Con, puisqu'il va falloir aussi éviter de la mettre en même temps que la Japan Expo, ou la mettre même une semaine après, les gens vont gueuler.
Moi j'ai envie de te dire où la placer aussi, parce que si c'est pour la faire Paris-Norville peinte, c'est même pas la peine. C'est déjà elle souffre de la comparaison avec la Japan, imaginez-la sans la Japan. Ce serait ridicule. Et
puis, là je n'ai parlé ridicule. Que des conventions comics dans Paris, mais il y a aussi toutes les conventions comics hors Paris, il y a aussi tous les autres salons dans Paris, les salons geeks, hein, les salons de jeux vidéo, etc. Et il faut absolument pas pour la Comic-Con les organiser en même temps. Pour moi, franchement, je vois pas quand ils peuvent le mettre.
Moi, je pense que s'ils devaient faire la Comic-Con en France, il faut qu'ils la fassent la semaine après la Comic-Con de San Diego et qu'ils mettent dans un avion tous les gens qui ont fait les panels de San Diego et qu'ils les emmènent à Paris pour faire le même panel en France. Et voilà.
Non mais
c'est bon.
Non mais si tu veux faire ça, faudrait que tu les payes la peau du cul pour qu'ils acceptent. De remballer la semaine suivante dans un pays comme la France, en plus avec un voyage de ouf à faire, enfin, je veux dire, là, franchement, juste un auteur qui accepterait de faire ça, à mon avis, il demanderait cher. Alors, trimballer.
C'est en rigolant, mais c'est vrai
oui,
que
bien
quand
sûr.
On pense Comic-Con,
non, mais dans
on
l'idée,
pense, on voit.
Dans l'idée, ce serait effectivement l'idéal, puisque, même sans les auteurs de la Comic-Con de San Diego, juste avec 2-3 auteurs, dans l'idée, c'est vrai que ce serait plus intéressant puisque
avoir,
t'aurais les annonces seraient tombées,
les vidéos,
et tu pourrais, voilà, tu
les
pourrais
vidéos, les trailers, toutes ces choses auxquelles on n'a pas accès parce qu'on n'est pas à San Diego, s'ils pouvaient les diffuser en France une semaine après la diffusion américaine,
c'est ça, faire une espèce de Comic-Con à l'américaine en France, comme si on y était, avec une semaine effectivement de décalage. Pourquoi pas? Dans l'idée, ce serait marrant. Voilà.
Ou alors, faut baisser la technologie holographique.
Voilà.
De manière à ce qu'on ait les gens qui viennent nous faire les conférences, mais en hologramme.
C'est ça, pourquoi pas.
Bon, pour les signatures, ça va être un peu plus chiant, mais...
C'est-à-dire que tu serais dans un hangar avec des écrans, tu sais, gigantesques sur tous les murs, qui filment en direct la Comic-Con de San Diego, comme ça, quand tu marches, t'as l'impression de marcher dans la Comic-Con de San Diego.
Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble vraiment bien qu'ils ont dépensé énormément d'argent pour avoir droit à ce nom, et que du coup, il y a des partenariats avec la Comic-Con américaine.
Oui, c'est un nom, hein, c'est une licence.
Donc il faudrait qu'ils profitent de ça pour nous faire découvrir des choses qui sont inédites en France et qui sont diffusées dans les Comic-Con, quoi.
Mais ils doivent s'en mordre les doigts, d'ailleurs, hein, d'avoir dépensé autant pour finalement un résultat si pauvre.
Qui sait, peut-être qu'ils sont déjà remboursés, hein, on n'est pas dans les comptes, on ne sait pas.
Après, moi, il y a un petit truc quand même qui est un petit peu dommage, c'est que si ça avait été bien fait, bien réfléchi, et que la Comic-Con avait réussi à vivre à côté de la Japan Expo, le côté mêler les deux univers, même si ça a plein plein de côtés négatifs, ça permet, je sais pas, tu vas à deux, il y en a un qui aime bien les mangas, l'autre qui aime bien les comics, tu peux y aller au même endroit, en même temps, avec la même personne, et découvrir un peu les deux univers aussi. C'était intéressant de mêler les deux univers, mais c'était très mal fait.
Non, je suis d'accord. Enfin, de toute façon, c'est véritablement j'arrive même pas à retrouver le mot que je voulais, mais enfin, c'est l'étape quand on est vraiment parqué là-dedans. Il y a tellement de monde, c'est tellement le bordel.
Ah, mais c'est l'enclos à poules, hein, franchement, ce truc. C'est l'enclos à poules. Puis il y a aussi une telle, si tu veux, une telle disparité, enfin une telle différence entre le côté Japan et le côté Comic-Con que. Franchement, pour quelqu'un qui vient pour la Japan, qui arrive du côté Comic-Con, il a vraiment l'impression d'arriver chez les pouilleux. C'est vraiment. Non mais c'est ça quoi. À mon avis, c'est vraiment l'impression qu'il doit avoir. Je suis chez les pouilleux parce que je suis désolé. C'est nul comparé
Pourtant,
au
c'est du côté de
côté
l'hippopotamus.
Japan
Hein.
Expo. Oui, d'accord, mais qu'importe, on s'en fout.
Ouais, non mais de toute façon, la Comic-Con survivait aussi énormément par son des aspects geeks. Plus que les aspects comics, avec notamment tous les youtubeurs qui sont là, les web-séries, etc. Et c'est ça qui attire du monde. Hein.
Oui, c'est un espèce de fourre-tout. Mais moi, je suis désolé. C'est bien sympa de voir le mec de Bref,
Bref.
par exemple, à la Comic-Con. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la Comic-Con. Je veux dire, à la rigueur,
Et pourtant, la
le
Comic-Con
salon.
américaine est comme ça, la Comic-Con de San
Oui.
Diego, c'est presque plus entertainment que comics maintenant.
Mais ça,
Ouais, d'accord,
c'est
mais
bien de faire le truc à la française, mais il faut y mettre aussi les trucs à l'américaine, quoi.
Mais voilà,
Faut
c'est
pas
ça.
penser que
C'est ça.
Franchouillard, quoi.
Exactement, exactement. Faut faire un juste milieu, trouver un juste milieu, parce que là, c'était, il y avait limite plus de trucs franchouillards, comme tu dis, Bruno, que de choses en rapport avec les comics. Ça s'appelle Comic-Con. Je veux dire, bon, c'est pas de ma faute, hein. À ce moment-là, faudrait que ça s'appelle autrement. Il y a tromperie sur la marchandise, quoi.
Dès qu'on aura une date, en tout cas, on vous la communiquera. On va passer à la suite et
Ouais.
aux annonces comics US, puisqu'on va parler de Moon Knight maintenant. Moon Knight, rappelons-le, qui est cette série qui va débarquer avec Warren Ellis au scénario, Declan Shalvey au dessin et Jordi Belair à la colo. Un Moon Knight qui sera vraiment différent de ce qu'on a eu l'habitude de lire jusqu'à présent. J'ai l'impression que c'est un petit peu le paradoxe Moon
Leitmotiv.
Knight. Chaque
Ouais.
nouvelle série de Moon Knight est une série vraiment différente. Cette fois-ci, on a un Moon Knight
Son
qui va
charme.
être guéri de ses troubles de personnalité, un petit peu le Moon Knight que l'on avait déjà pu voir quand Warren Ellis était passé sur Secret Avengers. Il va réutiliser ce Moon Knight-là, et ce sera un Moon Knight qui sera plus, on va dire, enquêteur de l'occulte. Avec un Moon Knight qui déjà aura un costume aussi bien différent, puisqu'il sera en tuxedo, enfin le costume trois
Ouais,
pièces, costard
costume trois
cravate,
pièces. Ouais.
etc., avec juste le masque
Et
et
puis,
tout un tas de
justement, la.
gadgets.
Avec plein de petits symboles en rapport avec la lune, et justement pour mettre en avant le côté mythologique de son pouvoir, en fait, et puis l'influence des dieux égyptiens. Donc, ils vont revenir aussi pas mal sur la mythologie de sa résurrection et compagnie.
Moi, franchement, après avoir lu ce passage où on a une bonne partie d'interview de Declan Shalvey, des interventions de Warren Ellis et de Jordi Belair, ça me donne sacrément envie. J'étais pas convaincu, mais là, j'ai vraiment envie d'aller tester ce titre maintenant.
Bah, moi, je suis curieux de savoir si le premier numéro, vous allez le comprendre un peu, parce que vous aviez eu un peu de mal avec le premier de du précédent numéro.
Oui, bon, ça va, on va pas revenir là-dessus, c'est
En plus,
bon.
c'était du Bendis, tu vois, le truc le plus compliqué à comprendre.
Ça va, il y aura plus de problème de personnalité, on a dit. Ah, ce gros fail qui remonte à maintenant, il y a 3 ans.
Ouais, en
Mais
3 ans,
c'était
on a fait
tellement
des
bon à
progrès, on
l'époque.
a appris à lire.
Et comme quoi ça arrive, on est humain, on peut se planter. En tout cas, ouais, moi j'ai vraiment envie. En plus, Jordi Belair nous promet une colorisation vraiment, vraiment d'un autre ton que ce qu'elle a l'habitude de faire, sans jeu de mots avec la colo, le ton, etc. Avec
C'est beau.
justement une ambiance très David Fincher dans l'approche de la colorisation.
Pas David Finch, justement.
Non, 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 David
Qui
Fincher,
était
le
passé sur
réalisateur.
Moon Knight.
Donc des couleurs un petit peu comme on a pu retrouver dans Seven, dans Fight Club, dans Zodiac, voilà, des teintes vraiment. Moi,
Zodiac, la série française avec Francis Huster.
Oh, mais ta gueule!
Oh.
Si c'est pour sortir des trucs pareils, monsieur, hein, franchement.
Très bonne série, hein. Je vous la conseille. Non, je déconne.
Non, franchement, ça me donne vraiment envie, quoi. Qui Declan Shalvey sur un projet d'envergure, bosser avec Warren Ellis, et surtout Declan Shalvey qui va pouvoir mettre sa patte au concept et non pas récupérer le run de quelqu'un et devoir se glisser dans les pantoufles déjà portées, quoi.
de très jolies premières pages qu'on peut découvrir, pardon.
Ouh, putain.
Oh putain. J'ai du mal. Qu'on peut découvrir sur les différents sites de previews.
Découvrir, je ne connaissais pas ce
on
verbe.
On va découvrir. Mais non, ça a l'air sympa. Moi aussi, c'est un titre. Voilà, j'avais un petit peu peur avec l'arrivée de Warren Ellis sur le titre, mais ça m'a donné envie de découvrir ça.
Ça arrive donc en mars. Parlons maintenant de totalement autre chose. C'est aujourd'hui, enfin non, c'est pas aujourd'hui puisque nous sommes, c'était le 20, pardon. Le mec qui se plante. C'était le 20 que devaient rendre les décisions des différents employés d'EDC, à savoir s'ils allaient partir pour la côte ouest ou non. Parce que je rappelle que DC déménage ses offices du côté de la côte ouest. Alors, on n'a pas encore complètement de résultats. À mon avis, on les aura d'ici le début de l'année. Savoir combien de personnes sont restées, combien de personnes ont accepté. Mais ils pensaient que à peu près 40% de l'équipe ne partirait, déciderait de ne pas partir sur la côte ouest et donc perdrait leur emploi. C'était le 20 qu'ils devaient rendre leur dernière décision. Et ce que l'on a appris aussi, c'est que Steven Walker, qui est quand même un des éditeurs les plus en vue de chez Marvel.
Ouais, 52.
Chez DC, donc.
Oui, avant, non, mais il avait fait 52.
Qui avait fait 52, mais qui actuellement éditait notamment tous les titres Spider-Man, qui sont une franche, franche réussite au vu du nombre de ventes. Steven Walker, que l'on voyait déjà un petit peu le futur remplaçant de Alonso. Honnêtement, c'était celui qui, pour moi, prendrait la place, en tout cas, d'éditeur en chef une fois qu'Alonso serait parti. Eh bien, Steven Walker va déménager lui aussi sur la côte ouest et rejoindre les studios de Marvel Animation.
Mmh. Bah, c'est peut-être plus intéressant finalement, hein, tout ce qui est animation maintenant que le côté papier, quoi.
Bah, ce qui est étrange, c'est que justement, Moon Knight, on en parlait juste avant, qui va être édité par Steven Walker. Que va-t-il arriver à tous ces titres ? Par qui vont-ils être repris et seront-ils repris par un éditeur aussi peut-être talentueux, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas qui mène vraiment bien sa barque.
Il a surtout eu de la chance aussi. Il a été vraiment placé sur les bons trucs au bon moment, quoi. C'est une question de timing.
L'éditeur, c'est aussi lui qui insuffle la direction au titre, qui dit au scénariste ou au dessinateur non, ça va pas, tu me refais ça, ça va pas, tu me refais ça, ou ça on le garde. C'est lui aussi qui donne des pistes pour différentes histoires, amène-le dans telle direction parce qu'on va voir le crossover dans pas longtemps et il faudrait que ce soit à peu près raccord. Enfin, ce qu'est censé faire un bon éditeur, hein, ce qu'apparemment certains chez DC n'ont pas compris. Hein. Mais bon, ça c'est le petit tacle facile au passage. Donc c'est étrange de voir ce déménagement vers la côte ouest. En tout cas, c'est Marvel qui doit se frotter les mains parce qu'il y avait 40% du staff de DC qui risquerait de rester... au niveau de la côte est, il y a sûrement des gens qui vont atterrir dans les locaux Marvel et donc profiter de l'expertise peut-être de certains de chez DC.
À voir s'ils les récupèrent ou s'ils ont la dent dure et justement ils en veulent pas.
C'est le mercato de l'hiver.
M'étonneront qu'ils récupèrent les 40% de staff, hein, de toute façon,
bien
ils
sûr,
n'auront
non,
jamais
bien
les moyens.
Sûr.
Mais en tout cas, ils pourront peut-être dénicher quelques personnes qui travaillent dans l'ombre, hein. Ce sont des gens qui sont des responsables de marketing, des choses comme ça, mais qui pourront apporter leurs pattes pour aider Marvel à progresser et à continuer de progresser. On va passer à DC maintenant. DC qui a annoncé un projet assez étrange dans le monde de Batman Arkham Origins.
J'allais dire juste un truc, oui, par rapport à ça, alors bon, dire c'est ce que tu disais, si ça tombe, ils ont déjà justement embauché des gens de chez DC, d'où le fiasco sur Inhumans. Puisque c'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques mois chez DC. Voilà. Donc ça faisait marrer que tu dis
oui,
ça.
Oui, c'est vrai que récupérer le staff pour faire les mêmes erreurs, c'était pas la meilleure idée.
C'est ça, au fait. Peut-être
c'est peut-être
que
pour
c'est
ça que Steven Walker décide de quitter le navire.
Et oui. Non, voilà, c'est.
Tout s'explique.
Oh, et oui.
Révélation. Bref, DC maintenant. Donc Batman Arkham Origins, ce jeu vidéo hein, qui remporte un franc succès pour cette fin d'année.
Ouais.
Eh bien, va débarquer dans un projet. Bien. Assez étrange, ça s'appelle Batman Arkham Origins a DC 2 Multiverse Graphic Novel.
Ouais, bah ils ont fait sobre, c'est bien. Non mais il faut faire sobre de temps en temps.
Qui sera donc un graphic novel digital dont vous êtes le héros. Bon, en tout cas, c'est vous qui choisissez le destin de Batman.
Ouais, d'accord, ouais. Je vois le genre, ouais, OK.
Avec de la musique, des sons, des animations et dont on est le héros.
C'est assez étrange, c'est en tout cas écrit par Adam Bichon, hein, qui décidément a le vent en poupe en tout ce qui concerne le digital chez Marvel, et le dessinateur est Christian Duce.
Qui se souvient d'Itizir, le petit singe, là?
On va pas en reparler à chaque fois, mais oui, je m'en souviens.
D'accord. On en a déjà parlé. Je ne me rappelle plus.
Oui. Oui.
Plusieurs fois.
Bah écoute, voilà.
C'est... Les sans péril. Mais
C'est ça. La jungle sans péril.
Mais pourquoi pas? On a, je sais pas. Personnellement, j'ai pas encore pu tester. J'ai pas regardé à quel prix.
Alors,
c'était vendu.
C'est pour le moment que sur iOS. C'est bien le problème.
Donc je pourrais tester, mais est-ce que tu as le prix, tu sais?
Non, je n'ai pas le prix.
Bon, je me renseignerai, mais j'essaierai de tester quand même pour en parler.
C'est t'as téléchargé à travers une application dont je ne retrouve.
Madefire.
Voilà, c'est ça. Madefire, et vous avez donc ce graphic novel. Et apparemment, ils ont remixé aussi Injustice Gods Among Us pour le rendre comme ça en dynamic artwork, comme ils appellent ça.
Ça peut être intéressant. Ouais. Je testerai et je vous en reparlerai prochainement. Alors.
Eh bien, on compte sur toi, Bruno.
Oula, j'ai rien compris.
Je sais
pas. j'étais curieux de voir ce que ça donne.
D'accord. Allez, on passe maintenant à notre partie indé pour terminer cette émission. Bill Gemas. Bill fucking Gemas. Un nom que vous n'avez pas entendu depuis très longtemps, j'imagine.
Il était dans une autre dimension, là, c'est pas possible.
Eh bien, il revient. Il revient aux commandes du studio Take-Two Interactive qui a décidé de se lancer dans le comic. Take-Two, c'est donc une boîte de jeux vidéo qui détient notamment les licences de Civilization, BioShock, hein Bruno ?
Ouais, BioShock, ouais.
Mais aussi GTA, Red Dead Redemption, enfin tous les projets de Rockstar.
Ils ont des sous, quoi.
Il y a, y a surtout du lourd en termes d'univers existant, déjà.
Bill Gemas, quoi. Ils se sont payés Bill Gemas, donc c'est quand même déjà ça.
C'est dingue, ouais, cette information. J'étais un petit peu passé à côté, mais un nouvel éditeur peut-être majeur.
La boîte va débarquer. Elle n'est pas encore complètement lancée. D'ailleurs, dans l'interview que Bill Gemas a donnée à Nousarama, il explique aussi qu'ils sont à la recherche actuellement de projets à faire, mais aussi de créateurs avec qui travailler. Et justement, si vous êtes un créateur de comics. Plus ou moins connu, hein, pourquoi pas. N'hésitez pas à envoyer un mail avec justement votre portfolio ou des idées de scénario, ce genre de choses, à bill.gemas@take2games.com. Ils sont à la recherche de monde. Ça fait peut-être.
Mastéjofo, Bill Gemas.
Ils sont déjà chez Marvel.
Oui, c'est pas grave.
Ils embauchent des dessinateurs, mais aussi des scénaristes, mais aussi des gens pour gérer le business. Donc notamment des gens au marketing, des gens à la com, des gens au design, etc.
Mmh. Non, mais on n'est pas prêt encore de voir un de leurs titres dans notre comic shop, mais en tout cas ça devrait pas tarder, pourquoi pas quoi. Moi c'est vrai qu'un comic book sur l'univers de BioShock, je pourrais trouver ça cool quoi. Si c'est un univers assez riche et qui pourrait donner des choses intéressantes.
En tout cas, Bill Gemas, lui, a de grandes, grandes, grandes ambitions, puisqu'il voudrait arriver à faire quelque chose d'aussi attractif et qui a autant d'importance que l'univers Ultimate, qu'il avait aidé à développer, bien évidemment, rappelez-vous.
Et Dieu sait si on a fait le parallèle entre l'univers Ultimate et Valiant, qui est... enfin, l'actuel Valiant est un petit peu un univers Ultimate de ce qu'était le Valiant des années 90. Donc, ce serait pas étonnant de voir surgir un univers à la Valiant avec Bill Gemas.
Et imaginez un comic Duke Nukem ou un comic Max Payne pardon.
Oui, alors est-ce que ce serait uniquement du coup des comics à licence Take-Two ou des créations originales?
Il y aura sûrement les deux, je pense.
En fait, pour l'instant, dans l'interview, il parlait de trois licences qui sont pas des licences de jeux vidéo, qui sont Codex, Carnate et Double Take, qui ont été, il y a eu les trademarks qui ont été faits.
Il voulait que ça se termine exactement de la même manière à chaque fois, parce que les trois, la sonorité se termine de la même façon. Donc c'est assez troublant.
Ce serait des projets originaux, mais effectivement, avec les licences qu'ils ont. Ce serait dommage de pas piocher là-dedans.
D'imaginer aussi des crossovers entre des univers, BioShock et
Duke
Nukem.
On va peut-être déjà espérer des crossovers.
non mais attendez, BioShock, Duke Nukem. Moi je pense que là, déjà, c'est vendu.
Come get some.
C'est le mec de BioShock qui rencontre Duke Nukem, quoi.
La classe.
C'est quoi ce bordel? Y a pas assez de cochons dans cet univers.
Non mais voilà, il y a des univers avec des milliers d'histoires qui sont faciles à développer, enfin faciles en tout cas, qui pourraient être relativement simples à développer, reste à voir ce qu'ils vont faire, mais je pense que c'est quand même une bonne nouvelle de revoir un mec qui a aussi bien géré Marvel, puisqu'il a quand même aidé à relancer Marvel énormément. Hein.
Mmh. dans les années 80, je crois. 90 ou 80, je ne sais plus.
90 et puis 2000, 90, hein, notamment,
oui,
toute cette franchise Ultimate, hein, qui a quand même remis Marvel sur le devant de la scène avec les meilleurs créateurs de l'époque.
Bah, c'était l'avant, il était là avant Quesada, quoi, c'est ça?
Oui, voilà. Oui, il a passé les rênes ensuite à Quesada en 2004. Mmh,
d'accord. Ok. Ouais. Ah oui, oui.
Allez, on passe à la suite. Le FCBD, on en parlait la semaine dernière, on en reparle cette semaine, puisque Valiant a annoncé du gros, gros lourd pour le FCBD. Qui vous voulez, hein, c'est que je suis fatigué.
Bah oui, alors Valiant a annoncé donc un nouvel event, tout simplement, qui s'appellera Armor Hunters. Alors toujours à propos de ce personnage d'Ixo Manoir, qui est un petit peu leur... la grosse vedette, hein, dans l'univers Valiant.
Bah, c'est le Spider-Man de Valiant, quoi.
Ouais, ouais.
Avec un costume d'Iron Man, mais enfin, en termes, oui, de popularité vis-à-vis de l'univers Valiant, bah, fut un temps, on ne développait rien sans Spider-Man.
C'est lui qui a, de toute façon, lancé un petit peu la machine Valiant. Je crois que c'était le premier titre à sortir.
C'était le premier titre, ouais, à ressortir, effectivement.
Voilà, donc Ixo Manoir, qu'on retrouve à travers cet event Armor Hunters, écrit donc par Robert Venditti, hein, qui connaît bien le personnage, et puis Doug Braithwaite au dessin, Doug Braithwaite, voilà, j'arrive pas à... Bon, bref, enfin, vous m'avez compris. Ça sort en juin 2004, enfin, ça commence en juin 2004, ce sera en 2014, oui, sinon ce sera un petit peu bizarre. Bon.
C'était sorti il y a 10 ans.
et ce sera un petit peu construit comme les Harbinger Wars. Voilà, donc alors attendre, qu'est-ce que ça va rassembler comme série à part Ixo Manowar?
Bah, ça va être pareil, c'est-à-dire qu'on aura une mini-série qui s'appelle Armor Hunters, qui sera en 4 parties, mm-hmm, donc par Robert Venditti, voilà, et Doug Braithwaite, et on aura aussi des séries tie-in, dont notamment Ixo Manowar. Oui. D'ailleurs, on aura Carrie Nord qui va revenir au dessin pour le numéro 26, qui fera partie de ce tie-in Armor, ouais, Hunters.
Ouais. Je cherchais voir s'il y avait
et
d'autres titres justement valiants.
Il sera aussi tie-in, mais... avec Unity numéro 8. Enfin,
ah, voilà,
en tout cas, le tie-in commencera au numéro 8 d'Unity.
Oui.
Matt,
oui,
Kint au scénario, Diego Bernard sera au dessin.
Oui, ça assure la transition. Bah, c'est vraiment les conséquences de Unity, quoi, en fait. Y aura une couverture spéciale.
Unity sera toujours une série régulière. Hein. De toute façon, c'est prévu.
Il y aura une couverture spéciale donc pour le Free Comic Book Day qui commencera donc cette saga par JJ Jones en plus.
Être Valiant met les petits plats dans les grands pour nous sortir un maximum de bonnes choses et décide d'utiliser au maximum ce Free Comic Book Day, bah, pour promouvoir son univers.
Un plutôt univers malin, vraiment de plus en plus riche et intéressant, et vraiment c'est bien de jouer le jeu du Free Comic Book Day cette année. Tous les éditeurs jouent le jeu, en même temps ils sont un petit peu obligés, puisque quand on voit ce qui se fait à côté, il faut être présent, quoi, cette année.
Tu allais dire, Bruno?
Oui, je disais que c'était plutôt malin comme idée, et c'est cool.
Alors en tout cas, d'après ce que l'on peut voir, parce qu'on n'en sait pas encore grand chose, hein, sur Armor Hunters, quelqu'un va vouloir vraiment du mal à Ixo Manowar, puisqu'on a notamment ce teaser avec Ixo Manowar, en tout cas ce qu'il en reste, c'est-à-dire son casque brisé et un vieux squelette à l'intérieur.
Puis on a aussi cette image où on le voit affronter d'autres mecs en armure, enfin d'autres personnages. Alors j'ai un petit peu de retard sur l'ensemble de sa série. Je sais pas si on les a déjà vus, ces individus, mais en tout cas ça a de la gueule, quoi. Ça donne envie de découvrir ces personnages.
Ouais, clairement. Les seuls, enfin, Valiant justement ne sont pas les seuls. Si j'oublie le début de la phrase, ça ne marchera absolument pas. Hein, vous avez remarqué. Je veux tellement vite finir. Valiant ne seront pas les seuls à jouer le concept du premier numéro d'un event gratuit pour le Free Comic Book Day, puisque Dark Horse aussi s'y met avec Project Black Sky. As-tu envie de nous en parler, Bruno ?
Oui, tout à fait, puisque c'est un projet intéressant qui mêlerait deux titres actuels, qui sont Captain Midnight et Brain Boy. Brain Boy, dont j'ai pu tester les premiers numéros et je trouvais le titre vraiment très sympathique.
Écrit par Fred Bandanti.
Voilà, c'est ça. Et donc peut-être à terme même y rajouter d'autres personnages, comme des personnages issus de Ghost et compagnie. Donc voilà, une sorte de crossover entre
Ah bah c'est pas peut-être, hein, en tout cas ce sont leurs plans. C'est vraiment avec ce gros event, enfin avoir une grosse cohésion dans l'univers super-héroïque de chez Dark Horse.
Donc, bah oui, c'est une bonne idée. Après, il y a des titres qu'ils ont de plus ou moins bien chez Dark Horse dans leur côté super-héroïque. Ça permettrait peut-être d'augmenter les ventes, par exemple sur Captain Midnight, où les ventes sont pas terribles. Mais non, l'idée est plutôt bonne.
Ça a l'air vraiment intéressant en tout cas. Là encore une fois, ils vont jouer le jeu du Free Comic Book Day avec le premier numéro pour cet event offert, pour essayer d'attirer un maximum de monde. C'est une bonne idée. Du coup, finalement, le Free Comic Book Day va être très difficile puisque ils vont devoir jouer à celui qui sera la meilleure série pour attirer un nouveau public.
Ouais, tout à fait. Et on sait que DC et Marvel cette année, ils vont faire aussi quelque chose d'assez sympa, qui vont être des débuts de grands arcs importants pour la compagnie. Donc il y aura beaucoup de concurrence.
Ouais, c'est assez intéressant. Donc ça sera aussi tie-in, hein, ce projet Black Sky, notamment à Captain Midnight, comme on l'a dit, et Ghost. Il y aura déjà des éléments début 2014 dans Captain Midnight 6 et numéro 7 aussi. Pour déjà débuter ce crossover. On va terminer par une news qui est pas très très drôle. C'est Dennis Cowan, un artiste qu'on n'a pas vu depuis peut-être un bon moment. Les plus anciens comme nous s'en rappellent sûrement. Il avait énormément travaillé sur l'univers Milestone, cet univers Black de chez DC, pendant un temps. Qui avait été ensuite intégré au DCverse, puis reboot. Ils sont toujours dans le DCverse, mais ils ont disparu. Hein. Static était notamment des personnages du Milestone Universe, qui est le personnage le plus connu. Il avait eu sa propre série animée. Dennis Cowan avait fait énormément de travail dans les années 90 pour cette boîte, et il avait envoyé des pages par UPS. Et le book qu'il avait envoyé contenait 28 planches originales, et elles ont disparu pour certaines. Ce qui est un gros problème, puisque l'emballage UPS fait que la personne est venue le chercher, l'a scotché avec un scotch spécial, hein, le scotch de déménageur, etc., qui est quand même censé être super balèze et impossible à enlever. Et bizarrement, quand le colis est arrivé, bien le scotch avait été, s'était décollé tout seul. Le hardbook était tombé, il y a des pages qui étaient parties. Alors, il y a plusieurs pages qui sont manquantes, notamment le Batman Ultimate Evil numéro 1, la cover que Dennis Cowan avait faite, le Fight for Tomorrow numéro 1, page 6, Flags of Our Father numéro 1, qui est une page, hein, la page 7 d'Hardware 2, la page 9 aussi, la cover d'Hardware 3, la page 7 d'Hardware 3, la page 4 d'Hardware 5 et la page 8 de Steel 35. Pourquoi je donne ces pages? Parce que ce sont les pages qui restent manquantes, qui n'ont pas été retrouvées, et qui apparaîtront peut-être sur YouTube, sur eBay. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un problème.
Qui apparaîtront peut-être sur YouTube parce que je les ai, je vais les filmer et les mettre sur YouTube.
La plupart de ces pages étaient ancrées par Jimmy Palmiotti, on a aussi du Klaus Janson à l'ancrage, enfin, ou du Tom Palmer, enfin vraiment grands noms sur ces pages-là.
Non mais à mon avis, de toute façon, la personne qui les a chourées, franchement, devrait y avoir un recours possible envers UPS. C'est pas possible, quoi.
Apparemment,
ça se passe.
Pas de recours actuellement. Ouais, c'est bien là quel problème.
C'est incroyable. Mais bon, je pense que de bons avocats pourraient faire quelque chose parce que c'est quand même énorme. Et d'autre part, il est totalement impossible, effectivement, de revendre ces pages sur eBay. Ce serait un bien trop grand risque pour la personne. Donc, malheureusement, c'est peut-être quelqu'un qui va juste les garder pour lui, quoi. C'est dommage.
En fait, il ne restait dans ce paquet qu'une page, un intérieur de Wolverine 125 qui avait été dessiné par Cowan et ancré par Bill Sienkiewicz.
Oui, d'accord. Ok, bah oui.
Donc ça fait un paquet de pages qui manquent. Si jamais vous les voyez passer sur eBay, essayez de contacter peut-être. Notamment Dennis Cowan, peut-être par Twitter ou par mail ou par Facebook. Enfin voilà, ces gens-là sont accessibles. Et n'hésitez pas à leur signaler si vous les voyez passer. Enfin, je trouve ça honteux, personnellement.
Ouais.
Vous avez notamment le bmissi at jpismuseum.com que vous pouvez contacter dans le cas où vous verriez ces pages, justement. Ouais, voilà, certains qui vont passer un bon Noël, je pense, qui ont récupéré ces pages, et d'autres qui se mordent les doigts. Comme quoi, les envois par UPS ne sont pas toujours sûrs, alors que c'est pourtant une des boîtes les plus utilisées, chers, en tout cas aux États-Unis.
Ouais. Bah, il peut y avoir des gens malhonnêtes partout. Hein.
Ouais.
Voilà, malheureusement.
Allez, on va terminer par très vite un Comics.com, un mail qu'on a reçu de Sylvain qui nous envoie des félicitations, qui nous dit « Bonjour Steve et toute l'équipe, je vous envoie un message pour vous féliciter pour les 5 ans de Comic City. Vous faites vraiment un travail formidable et l'award obtenu lors des Golden Blog Awards 2013 est totalement mérité. Je n'ai pas l'habitude d'envoyer des messages sur Internet, je ne participe pas trop aux forums, malgré que je les suis, de même que Facebook et tous les réseaux sociaux. » Mais j'ai décidé de prendre ma plume virtuelle pour vous remercier. J'ai commencé mon histoire avec les comics il y a maintenant 2 ans, avec les débuts d'Urban Comics sur les New 52. Depuis quelque temps, je voulais m'y mettre, mais les numérotations élevées de certaines séries, la continuité existante, etc. me faisaient peur. Et ce lancement d'un nouvel éditeur, avec des séries reportant à zéro, fut un bon point d'entrée. Par la suite, j'ai décidé de commencer aussi à suivre Panini, un peu avant le Marvel Now, pour profiter aussi d'une grande relance et essayer de comprendre un peu mieux. Et c'est là que vous intervenez. Après avoir suivi d'autres podcasts et suivi d'autres sites de news, je vous ai découvert et depuis je ne vous ai plus quitté. Pour un débutant, des émissions comme les vôtres sont parfaites. Je ne suis pas le Comics Weekly n'étant pas lecteur VO, je crains les spoils. Vous donnez vos avis très différents selon les différents membres de l'équipe. Vous expliquez certaines choses un peu complexes dans les continuités. J'ai approfondi des connaissances et me suis lancé dans des séries moins mainstream, Fables, Saga, Sandman et tellement d'autres que vous m'avez donné envie de lire pour lesquelles je n'ai malheureusement pas pu trouver le temps encore. Je pense m'être fait grâce à vous une solide culture comics, malgré qu'on ne puisse pas tout lire, mais un jour j'y arriverai. Alors là, j'ai envie de dire, t'as de l'espoir. Nous-mêmes, ouais. On se dit un jour j'arriverai à tout lire, mais on.
Ah, même nous, on a du mal. Moi, si tu savais le nombre de retards que j'avais sur les séries, c'est des dizaines et des dizaines.
Et celles qu'on voudrait commencer, mais qu'on trouve pas le temps de faire. Ou l'argent. Pareil. Ou l'argent, tout simplement.
Oui, bien sûr. Ouais.
Et puis surtout, vous êtes toujours de bonne humeur. Je me suis éclaté à vous suivre ce vendredi soir pour votre live des 5 ans. De même que depuis pratiquement 2 ans que je vous suis. Je me suis aussi mis à écouter toutes vos anciennes émissions. Enfin, je n'ai pas encore fini, c'est que vous n'avez pas chômé en 5 ans. C'est vraiment un bon moment que je passe avec vous, même sur des podcasts plus anciens. Mais grâce à ça, je peux toujours découvrir des anciennes séries, d'anciens arcs scénaristiques, events, crossover que j'aurais raté. Voilà, c'est un peu long, mais je tenais sincèrement à vous remercier et vous féliciter pour ces 5 ans et pour tout ce travail accompli. J'espère que cela va durer encore longtemps. Sylvain.
Non, on s'arrête en janvier, hein, théoriquement.
C'est notre dernière émission.
C'est cette fameuse date.
Oui.
ça fait plaisir, un mail. Oui. Un mail, ça nous pareil. Fait
vraiment très plaisir, Sylvain. Merci à toi. Ouais. C'est exactement pour ça que l'on continue, 5 ans plus tard, à faire des podcasts, à prendre sur notre temps perso, pour justement essayer de vous offrir ces émissions. On a voulu répondre à un manque qu'il y avait à l'époque. Enfin, j'ai, parce qu'il ne reste plus que moi de l'équipe originale. Le mec, il se balance des fleurs. Tu sais. Voilà, j'ai vraiment voulu répondre à ce manque. Et puis, m'ont rejoint ensuite Benny, Sam, Bruno, et puis tous les autres chroniqueurs que vous avez découverts au fur et à mesure sur le site. Et avec qui on travaille un maximum. On essaye de faire le maximum pour vous offrir le plus d'émissions possible, le traitant de plus de sujets possible. D'ailleurs, la semaine prochaine, une émission sur la littérature russe du 16e siècle.
On a préparé avec bonheur.
Ah non, t'es obligé de venir, hein, je déconne pas. Enfin voilà, on essaie vraiment de faire le maximum et vraiment merci pour ces félicitations parce que ça nous touche sincèrement. Ça nous fait, c'est ce genre de réaction qui nous donne envie de continuer, d'essayer de continuer de faire un maximum de bon travail. Enfin, en tout cas, on espère qu'il est bon, même si des fois.
En tout cas, ce qui est encourageant, c'est de lire. Surtout, c'est ce que je retiens. Vous êtes toujours de bonne humeur. Oh. Voilà, parce que bon, là, c'est que franchement, on fait du bon boulot, hein, parce que c'est pas toujours le cas.
Actor Studio.
Oui, voilà, c'est ça.
Et non, mais on essaye en tout cas de communiquer un maximum de bonne humeur, parce que voilà, les comics, c'est déjà assez dépressif comme ça quand on lit du Bendis. Alors franchement, oh le tacle de dernière minute, oh. Non, mais voilà, c'est vrai qu'il y a déjà aussi de mauvaises séries, etc. Si on n'essaye pas d'y mettre un peu de bonne humeur, ça donne envie de se flinguer quand même.
C'est clair.
Quand on a dépensé 4 euros pour lire un truc nul, il y a de quoi se flinguer. Surtout quand on fait une semaine avec 10 lectures et c'est 10 lectures pourries, quoi. Bon, ça arrive rarement.
Ouais, ça arrive rarement. Non, mais c'est surtout que, bon, voilà, quoi. Il y a aussi la vie à côté et c'est vrai que c'est pas toujours simple de manier les deux, quoi.
Oui. J'essayais de vous. Je voulais faire une vanne, mais j'y arrive, je trouvais rien. Donc
non,
c'est
manier peut-être. Mais personne comprendrait. Donc,
personne ne comprendra, vrai. Non. Ouais. Ou alors les gens du coin.
S'il y en a qui nous écoutent.
Si vous êtes de Niort, n'hésitez pas à envoyer un petit mail. Hein, d'ailleurs. Bref, c'est.
Ça fait message désespoir de Noël, tu sais. Si vous êtes de New York, envoyez-moi un mail, s'il vous plaît.
D'ailleurs, Noël, tu en parles, c'est très bien, puisque ce Weekly News sera votre cadeau, puisqu'il sortira le 24. Vous pourrez l'écouter le 25, comme je disais, peut-être encore pinté de la veille.
Et on est à un quart d'heure de Noël. Puisque nous enregistrons et qu'il est 23h40.
Oh putain, ça va être chaud d'un matin, boulot.
Non, bref. Demain, c'est pas Noël, Benny, c'est le 24.
Oui, c'est le 24, c'est la veille de Noël.
Non, mais c'est ce que je dis, nous sommes à un quart d'heure, du coup, du jour de Noël. Enfin, du jour du réveillon de Noël, oui, bah, oui. C'est pour les gens comme moi qui n'attendent jamais le lendemain.
Et n'hésitez pas d'ailleurs à dans les commentaires nous dire si vous avez eu des cadeaux comics à Noël et à nous dire ce que c'est. Ça,
voilà. Ce sera amusant. Nous laissez votre adresse avant qu'on vienne vous les dérober.
Exactement.
Non, bien sûr que non. Nous ne ferons pas ça. On vous laissera un petit mot quand même.
J'enverrai le Krampus.
Merci, on en fera la review la prochaine fois. En tout cas, merci à vous pour votre soutien, surtout. Et puis merci à Sylvain de nous avoir envoyé ce mail. D'ailleurs, vous pouvez faire comme Sylvain en nous envoyant des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Nous serons lus dans les prochains Weekly News. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'il va y avoir un nouveau concours qui a débuté aujourd'hui, normalement. Si les choses se sont passées correctement,
oui,
j'ai pas eu le temps d'aller vérifier.
Tout à fait, sur Twitter.
Sur Twitter, effectivement, c'est un concours sur Twitter cette fois-ci, et il s'agit d'un concours Delcourt où vous pouvez gagner. Bruno, peux-tu me rappeler, s'il te plaît, je ne sais plus.
Star Wars, le premier tome, et Tony Chu, le dernier tome actuel.
Le tome 7. Ouais. Voilà, surtout qu'on les avait annoncés vendredi, mais trop de mémoire. Merci Bruno. Donc n'hésitez pas à participer sur Twitter cette fois-ci, puisque bah, voilà, certains ne sont pas inscrits sur Facebook. On s'est dit bah, pourquoi pas essayer de donner la chance un petit peu à tout le monde et de faire ce concours sur Twitter. Comme d'habitude, bah, justement, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Twitter @ComicCity, hein, tout simplement. Et puis les mails, je l'ai déjà annoncé. Vous retrouvez aussi toutes les anciennes émissions. Si vous, comme Sylvain, vous avez envie de découvrir les anciennes émissions, j'ai envie de dire attention à votre santé mentale.
Et puis, signalez-nous si jamais il y en a justement qui sont plus disponibles. Ça pourrait arriver, hein, qu'il y en ait qui disparaissent.
Sait-on jamais. Si jamais vous trouvez un lien qui ne marche plus, d'ailleurs, voilà, N'hésitez pas à nous le signaler. C'est vrai qu'avec le changement de site, j'avais oublié de le préciser. Mais n'hésitez pas à nous prévenir. Voilà, enfin, un petit rapport de bug, quoi.
Comme ça, on peut remettre. Normalement, Steve, tu les as toutes. Hein.
Je les ai tous gardés. Tous gardés sur mon disque dur, qui d'ailleurs souffre atrocement de ça, puisque je peux vous donner exactement la taille que cela représente. Il y en a pour plus de 22 gigas.
Ouais, voilà. Quand même. Et tu m'avais donné un temps aussi. C'est intéressant, on l'a jamais donné, je crois.
Bah oui, mais là, je pourrais pas le lancer maintenant.
Là, tu pourrais pas, mais je crois qu'on était dans les 200 heures, non?
Bien plus.
Je ne sais plus.
Non, c'était pas plus que ça en fait, mais c'était quand même déjà pas mal.
Ça représentait quelque chose d'assez énorme en tout cas.
Ça représentait, je crois qu'on avait dit, plus de 20 jours de direct.
Oui. Oui, il y avait plus de 20 jours d'émission. 20 jours mis bout à bout, bien sûr. Hein.
Ouais.
20 fois 24 heures.
480 heures.
En y pensant, c'est complètement taré. C'est complètement taré et ça me fait peur.
On va pas regarder.
Ça me fait très peur. C'est-à-dire que ça fait 20 jours qu'on passe à dire des conneries comme ça. Oh là là.
Et qu'il y en a qui les écoutent.
Il y en a qui les écoutent, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Et que nous sommes adulés comme des stars. Enfin bon. Ah si, j'ai ouï dire qu'au Baléar, nous sommes des stars.
D'accord.
Qu'ils ont érigé des statues à notre effigie.
D'ailleurs,
ils sont emmerdés parce
qu'il
faut qu'ils changent le logo. Ils sont obligés de refaire une statue, là. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité. Je ne sais pas, honnêtement, à l'heure qu'il est actuellement, je ne sais pas quel autre podcast il y aura d'ici la fin de l'année. Il y aura sûrement encore une émission d'ici la fin de l'année. Mais je ne sais pas laquelle. Tout simplement. Non, mais voilà. Il y aura sûrement pas de Weekly News la semaine prochaine. C'est même sûr. Il y aura pas de Weekly News la semaine prochaine. Il y aura peut-être un Comics Weekly. Puis de toute façon, vous retrouverez le live qui devrait être mis en ligne vendredi, je pense. En version audio, hein, pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas regarder la version vidéo ou qui auraient envie de réécouter que l'audio, simplement dans les transports.
S'il y a un Comics Weekly, ce sera pas avant le 3 janvier, quand même. Du coup.
Oh là là, non mais j'ai pas le calendrier en tête là, ça suffit. Oui, bon, vous aurez une émission quand vous en aurez une. Voilà, c'est comme ça. Ah, c'est bien la première fois qu'on ne sait pas quand il y aura une prochaine émission.
Ouais, suspense. Voilà, mais on reviendra. On est comme Schwarzenegger dans Terminator. I'll be back.
On vous remercie et on vous dit du coup, passez de très bonnes fêtes. Et si on ne se revoit pas d'ici là, très très bonne année.
Ouais, très bonne fête.
Allez, pouit pouit.
I step forward, you step back. I play my card, you retract. Oh, am I gonna clean up the mess? All I've got is a whole lot in chest. Do you mind when I move around? Up in the front, but just for the back.